Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite de vos gorgons?
Ça veut dire qu'on est piégés, chacun pour sa porte.
Oh, tu vas la faire. En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Oh, je ne suis pas si réjoui que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bon, oh, la voix cassée. Bonjour.
Je ne vais pas mâcher.
Si.
Hello.
Bonjour les amis.
Hi.
Comment ça va?
J'ai mal à la gorge.
Moi aussi.
Je suis fatigué, mais ça va.
Est-ce que vous avez survécu à la canicule?
Parfaitement bien.
Ça a duré 2 jours alors.
Une journée.
Ça
n'a
pas duré assez longtemps. À mon goût.
Ou trop.
Ouais, ben ouais.
Il a été long ce mois-ci, vous trouvez pas?
Ah bon?
Mais ça, c'est parce que du coup, on a regardé beaucoup, beaucoup de choses, oui. Et du coup, t'as cette impression.
J'ai l'impression qu'il a duré 8 semaines.
Je crois qu'il a fait la même taille que tous les
autres. Moi, c'est parce que j'ai travaillé, alors je me suis sentie occupée.
Plus long ou plus court, du coup? Pareil.
Non, je crois que c'est passé moins vite.
Ah!
Donc plus long.
Donc plus long.
Ouais, plus long.
Ok.
Mais juillet avait. Juin avait été super long aussi parce que j'avais l'impression d'avoir fait des tonnes de trucs.
Ce qui est drôle, c'est que j'ai. En écrivant cette intro, je me suis rendu compte que j'avais écrit la même chose le mois dernier. Que le mois de juin avait paru super long.
Oui, parce qu'on avait fait plein de trucs.
Tous les mois te paraissent longs, c'est ça que je veux dire.
Oui.
C'est ouf.
C'est pas faux.
On va enchaîner tout de suite.
Let's go!
Avec ce mois-ci, plein de choses à vous raconter. On parlera de Stranger Things sur Netflix, évidemment, de Miss Marvel sur Disney+, et du Monstre des Mers sur Netflix. Mais avant de commencer, on va parler d'actu. La Comic-Con 2022 de San Diego a fait le plein de bandes annonces et d'annonces concernant les plateformes. J'ai retenu plein de trucs, je vais vous raconter les choses. Et puis à la fin, vous allez me dire ce qui vous hype le plus, si ça vous dit. Alors pour Prime Video, il y a une grosse bande annonce de 3 minutes pour la série du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, qui est sortie. Sans surprise, c'est un mélange entre la saga de Peter Jackson et Game of Thrones.
Bah, je l'ai pas vu.
Moi, j'ai cru voir Sauron.
Non, on voit pas Sauron.
C'est vrai?
Non.
Mais alors pourquoi quelqu'un a dit on voit Sauron?
En fait, on voit une créature avec des doigts pointus, mais on sait pas qui c'est.
C'est un des trackers.
Tu confonds.
Ah zut.
Mais le trailer donne envie. Il est plutôt bien fichu, ça a l'air très beau.
Est-ce que c'est mieux que quand ça faisait couler du métal fondu dans...
C'était stylé le métal fondu.
C'est vrai, mais c'était pas très vendeur.
Moi je l'ai pas regardé, alors je peux pas dire.
Non, je vous invite à le regarder, puis on en parlera peut-être...
De toute façon, ça sort en septembre.
Ça arrive le 2 septembre.
Ça sort en septembre.
Ça approche. On se rend pas compte, hein, mais ça arrive vite.
Pour mon anniversaire.
Oui.
Non, c'est avant.
Après.
Sur Disney+, il y a eu un teaser pour I Am Groot qui arrive le 10 août prochain. On sait que ce sera 5 courts-métrages qui sont pas vraiment canons au MCU parce que c'est avec Baby Groot.
Pourquoi pas canon?
Il est vieux maintenant.
Quand je dis pas canon, c'est que c'est pas relié au MCU. Quoi.
Ah oui, d'accord.
Ça se passe dans le passé quand il était petit.
Ouais, mais après, il a rejeuni à un moment donné.
Mais non, mais là, on l'a vu dans Thor, t'as bien vu qu'il était plus comme ça. Il est ado maintenant, là.
C'est vrai.
Ah,
c'est dans le passé ça, pas dans le passé encore avant.
Non.
Ça a l'air mignon, voilà. Il y a eu des concept art pour la série Spider-Man Freshman Year, la série d'animation. Mais si, ça avait l'air vachement bien. C'était
tous les trucs Spider-Man sont
bien. C'était ce qui est. On nous dit c'était il y a le Spider-Man de Tom Holland. Et c'est avant Homecoming quand on découvre ses premières années. Mais en fait, plus du tout. C'est plus du tout Tom Holland. C'est
qu'est-ce qui se passe?
C'est un autre Peter Parker, mais en fait, c'est juste une nouvelle série d'animation Spider-Man. C'est plus... Parce qu'en fait,
C'est genre dans un univers.
Il y a des personnages. Oui, voilà. Il y a des personnages qui. Il y a Norman Osborn qui n'existe pas. On nous le dit dans Spider-Man 3. No Way Home. On nous dit que Norman Osborn n'existe pas. Et donc, du coup, là, il y a Norman Osborn. Enfin, voilà. Donc, du coup, on comprend que c'est plus canon MCU. Donc, c'est. Bah, j'ai plus du tout envie de voir.
Bah, après, ça. C'est. Bah, tout c'est. Tout est canon
oui,
MCU.
Vu que c'est des. Oui, c'est ça.
Oui,
ça
non,
peut
mais
être dans un univers.
Oui, mais c'est pas la Terre 199999.
999999.
Donc, du coup, il nous reste 2 ans pour estimer si ça vaut le coup ou pas d'être regardé.
2 ans,
bien sûr. Parce que ça arrive en 2024.
C'est loin, 24.
Oui. Il y a eu quelques infos concernant What If. La saison 2 arrivera finalement en 2023.
Bon, est-ce que tu peux arrêter de te plaindre de toutes les annonces?
Une saison 3 a déjà été annoncée.
Bah, c'était bien.
Quoi?
Bah, c'était bien, What If.
Et il y aura son spin-off, Marvel Zombie, qui arrivera en 2024.
C'est quand même un spin-off dans spin-off. Là.
Ça n'a aucun sens.
Oui. Mais ce qui a l'air pas mal, c'est qu'il y a une classification US TV MA. Qui est une sorte
pas d'accord, elle,
de oui qui est une sorte de moins de 17 ans où les parents doivent être au courant de ce que les enfants regardent.
Très bizarre comme classification. Oui.
Et pour info, c'est la même classification que les séries Marvel Netflix.
D'accord.
Voilà, donc peut-être ce sera un peu violent.
Qui était un peu vénère les séries Marvel Netflix pour le coup.
Bah, du coup, Kevin Feige a aussi présenté l'avenir de l'univers Marvel et de ce qu'on appelle maintenant The Multiverse Saga, en annonçant plein de séries.
C'était quoi cette voix?
C'est
une série. C'est une série.
The
Multiverse Saga. J'ai la voix cassée, je peux faire les grosses voix.
J'ai la voix pour faire les pubs de SFR.
SFR. The Story of a Man. Coming soon in theaters. Donc du coup, il y a plein de séries qui composeront les phases 4 et 5. Donc ça commencera par She-Hulk, qui arrive dès le mois prochain, qui sera la dernière série de la phase 4. C'était pas vraiment prévu, mais maintenant c'est comme ça. Il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie, et ça a soudainement hypé Mathilde.
Ouais, parce que tu m'as dit que ça allait avoir des airs d'Ally McBeal. Et que l'actrice, c'était l'actrice d'Orphan Black aussi.
Je sais pas de quoi tu parles.
Ali
McBeal, ni Orphan Black. Alors,
Ally McBeal, c'est une série des années 80, 90. 90. Plus. Ouais, 90. Qui parle d'une avocate. Et en fait, elle parle à la caméra. Elle casse le quatrième mur. Et aussi, c'est comment j'avais dit, l'imagination.
Imaginaire réaliste.
Ouais, elle fait un peu de l'imaginaire réaliste. En gros, il se passe des trucs dans sa tête qu'elle voit alors que ça se passe pas spécifiquement. Enfin,
genre, c'est en animé ou c'est des vraies scènes?
Ça peut être, non, ça peut être en animé, ça peut être aussi du photoshopage, enfin des trucs comme dans les années 90, tu vois.
Ouais.
Un peu bizarre. Et il y a quand même, dans Ally McBeal, il y a. Comment elle s'appelle? Lucy Liu.
Il y a Lucy Liu. À chaque fois que je vois qu'elle est là, je suis étonné de m'en rappeler.
Et oui, bah, j'adore Ally McBeal, c'est une de mes séries préférées du monde entier. J'ai très envie de la re-regarder, mais elle est dispo absolument nulle part. Et du coup, si
t'as
c'est
pas besoin, tu vas pas regarder She-Hulk.
Oui, mais si c'est. Mais en tout cas, She-Hulk que j'ai vu, ça avait l'air sympa. Cette bande-annonce m'a donné envie, mais le fait que ce soit l'actrice de Orphan Black, ça donne encore plus envie parce que dans cette série-là, elle jouait une multitude de personnages. En gros, ça parle d'une fille qui se rend compte qu'elle a des sœurs, et en fait, c'est pas ses sœurs, c'est ses clones. Et elle est clonée en beaucoup de fois, donc elle joue beaucoup de personnages différents.
Bah, le nom me disait rien, mais le pitch me dit quelque chose.
Tu te rappelles donc de cette série? Bah, l'actrice, c'est celle qui joue dans She-Hulk.
Ah oui, bah, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Oui.
Bah, c'est une très bonne actrice.
Revenons à Marvel. Mais c'était intéressant ce que vous disiez. La phase 5 débutera sur la plateforme au printemps 2023 avec Secret Invasion, qui sera sans doute lié à la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, quand il y avait Nick Fury qui était dans l'espace, avec des cris, avec des Skrulls. On imagine que ce sera à peu près là-dessus. À l'été 2023, il y aura Echo, le spin-off de Hawkeye, l'antagoniste qui était malentendante.
Ah.
Et bah, celle qui s'appelle Echo.
C'est vrai. Nice.
Puis il y aura la saison 2 de Loki, toujours
ça va être décevant.
À l'été, je sais pas.
Peut-être décevant.
Puis à l'automne, il y aura Iron Heart.
C'est quoi ça?
C'est une jeune fille qui découvre ou qui parvient à créer des armures comme Tony Stark. Elle apparaîtra dans Wakanda Forever.
C'est comme Spider-Man. Non. Ça sera des, ça sera une nouvelle comme Spy, enfin ça sera,
ce
en
sera
gros,
une ado qui dé, mais ah, qui se fabrique des armures. Et dans les, bon là du coup on n'est plus vraiment sur les plateformes, mais dans les quelques images promotionnelles de Wakanda Forever, eh ben on voit, elle avait même une Funko Pop déjà qui est sortie de son personnage où on voit qu'elle a une sorte d'armure un peu prototypée. Voilà. Et puis l'année 2023 se conclura par le spin-off de WandaVision, Agatha, qui a été renommé Coven of Chaos.
Moi, c'est un bon nom.
Alors que c'était pas ça, c'était House of Darkness jusqu'ici, le... ça a été renommé.
Coven of Chaos, je préfère.
On démarrera 2024 avec une nouvelle série Daredevil. Intitulée Born Again, et avec le retour de Charlie Cox.
J'aime Charlie Cox.
Bah oui.
Et surtout, il y aura 18 épisodes.
Oh, mais c'est quoi ce nombre incroyable d'épisodes ?
C'est fou.
J'avoue.
Si ça...
C'était une série assez courte, je crois, au final.
C'était 13 épisodes, je crois, les séries Netflix.
Oui, fois 2.
Mais Disney Plus nous a plus habitués à 6, 9 épisodes par là. Donc du coup, très très long. Surtout si c'est de l'hebdomadaire, ça va nous prendre longtemps. Et puis ce sera... Moi, je pense que c'est un soft reboot. Déjà, le nom Born Again le laisse deviner. Mais moi, je pense que c'est un soft reboot, un peu en mode... peut-être que ce qui s'est passé sur Netflix existe, mais peut-être pas non plus.
Moi, j'espère qu'il y aura The Punisher, en tout cas.
Non, je pense pas.
Et il est... L'acteur a envie, mais il n'est pas vraiment Disney Plus compatible.
Non, pas du tout compatible.
C'est dommage parce que c'est clairement un des meilleurs persos.
Non, c'est lui le meilleur perso.
Déjà, quand on voit comme le Kaïd a été moins...
Modelé.
Voilà, il a été modelé.
Il a été modelé Disney Plus.
Bah, le pire, c'était quand même dans Hawkeye. Hein.
Oui, c'est ça que je dis. Dans Hawkeye, il est quand même moins terrifiant, moins flippant, moins violent que dans
Daredevil. Bah, c'est modelé Disney+.
Oui, mais Disney+, ça a aussi Pam et Tommy et tout. Il y a un peu de tout.
Oui, mais, c'est Star. Il faut réfléchir au fait que c'est pas la même chose.
D'accord.
On quitte Marvel pour un programme Disney cette fois, avec l'annonce d'une suite reboot de la saga d'aventure Benjamin Gates, qui était incarné par Nicolas Cage. Cette fois, je sais pas en fait, je connais pas le nom VO des films, mais là ça s'appelle National Treasure.
C'était déjà le nom
Treasure,
du premier.
Ok, Edge of History. Et là cette fois ça mettra en scène Lisette Alexis dans le rôle de Jess Morales. Il y a pas de date de diffusion pour le moment, il y a juste un teaser qui présentait pas grand chose à part l'actrice en fait.
C'était pas foufou. Hein, pas fou.
En fait, je les ai jamais vus. Mais
celui-là, National Treasure.
Mais Alexis, que vous connaissez, est un grand fan de ces films. Qui me les a peut-être beaucoup, beaucoup trop vendus.
La tête, il est fan.
Ah, mais vraiment, au collège, il en parlait tout le temps.
Mais ah oui, au collège. Mais peut-être que s'il
peut-être qu'il a grandi maintenant.
Fan.
Notre passion pour les Illuminati est née grâce à ces films.
Quoi ?
Alors,
Passion Illuminati.
Ouais, je m'y attendais pas.
Allons chez Netflix.
Est-ce qu'il y a des podcasts d'Illuminati ?
Certainement. Chez Netflix, il n'y a pas eu grand chose. Il y a une nouvelle bande-annonce, beaucoup trop longue évidemment, avec une VF terriblement nulle de la série DC Comics The Sandman.
Qui sort au mois d'août.
Qui arrivera le 5 août. Ça a l'air vraiment très beau par contre.
Ouais, mais visuellement, ça m'a donné envie. Très, très mais il n'y a pas un côté un peu horrifique ?
Ah si, c'est dark.
Ouais, c'est ça.
Je crois que c'est DC Comics, mais c'est... Comment ça s'appelle ? C'est... je sais plus. Enfin, il y a une collection dark chez DC Comics. Il y a un super casting aussi. Vraiment pas mal. Je m'en rappelle plus là, mais je l'avais noté. J'ai fait, oh, pas mal. Mais par contre, ça m'emballe pas vraiment. Donc en fait, c'est plus la curiosité qui va peut-être me donner envie de regarder plus que le... Plus qu'une euphorie.
Il n'y a pas plus d'infos sur le nombre d'épisodes ou les trucs comme ça ?
Je sais pas.
Bah, si, ça sort bien. La semaine pro, il doit avoir. Ça doit être donné quelque part, ça.
Pendant que tu cherches cette info.
Le 5, si, c'est la semaine pro.
Pendant que vous cherchez l'info, je continue avec OCS et une bande-annonce de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, qui a été diffusé. Et pendant la Comic-Con, il y a même G. George, plutôt, R.R. Martin, qui a adoubé le spin-off. Il a dit, j'ai vu 9 des 10 épisodes et c'est incroyable, je suis vraiment très heureux. En même temps, est-ce qu'il allait dire, sur scène, c'est de la merde? Je suis pas sûr.
Sans doute pas, il a besoin d'argent.
Il a besoin de moula pour finir, ou pour ne pas finir.
Oh non, tu devrais rire, rien, regarde.
Ben voilà. Ah. Et puis donc, ça commencera le 22 août prochain. Donc, les loustiques, là, préparez-vous parce que le spin-off de Game of Thrones arrive ce mois-ci.
C'est sur OCS.
Ça va.
Oui, c'est sur OCS.
Est-ce qu'il faut avoir... juste regarder parce qu'il y a Matt Smith.
Est-ce qu'il faut avoir vu Game of Thrones ou pas?
Non, je pense pas.
Je pense pas.
Parce que moi, j'ai arrêté la saison 3.
Tu veux que je te raconte la fin? Il y a des dragons.
On n'a pas le temps.
Oh, c'est fou, dis donc. Faisons un podcast où tu racontes des séries.
Mais d'une façon très approximative, il y a une... La fille qui a les cheveux blonds, elle monte sur un dragon, elle détruit tout, c'est la fin.
On devrait faire un jeu, la récré récapito, et on doit raconter des séries très mal. Il faut qu'on les devine ce que c'est.
Je suis sûre que c'est un jeu de société qui marcherait très bien.
Ça existe un peu, je crois.
C'est pas un jeu que j'ai inventé, je l'ai déjà vu dans des émissions. Enfin bref, on n'est pas là pour raconter nos vies. On va passer maintenant au dépito. Au hypito, mais il n'y a que moi, j'ai un dépito.
Non, moi j'ai mis un hypito. Ah oui, toi t'as mis un dépito.
Ah oui. Ah merde.
C'est pas du tout ça. Ça faut pas couper. C'est pour le dépito. Oh, c'est son du dépito.
Dépito.
Damien, t'as un hypito, je le comprends pas trop, donc on te laisse l'étayer.
Je sais pas si ça rentre dans le cadre d'un hypito, mais je pense qu'on est pas obligé d'en débattre. En tout cas, j'ai vu.
Ah, t'as vu Comme des Grands?
Quatre épisodes de Comme des Grands.
Ah, ça donne trop envie.
La petite série sur Netflix qui abandonne des enfants dans la rue en leur confiant des tâches. Et
ah oui, c'est pas des enfants au Japon.
C'est ça, c'est au Japon.
Parce que le Japon est très sûr.
Oui, le Japon est très sûr. Vraiment, de toute façon, les gamins sont très... ils ont 6 ans, ils traversent des routes, genre comme des grosses départementales, et ils s'y prennent très bien, c'est très impressionnant.
Mais je crois que j'avais vu... Est-ce que c'est avec cette série où j'ai vu d'autres articles qui disaient que la société japonaise essaie de construire des aménagements publics pour que des enfants seuls puissent y traverser en sécurité?
Ah oui, par contre, oui, ça c'est clair. Non mais vraiment c'est trop bien. Bah de temps en temps la petite voice over est un peu à côté, genre tout n'est pas intéressant dans ce qu'il raconte, mais par contre
j'arrive plus à l'en mettre.
Le concept super. Le concept est vraiment trop bien et c'est pas non plus tout le temps allez machin va faire des courses, c'est varié en fonction des endroits où ils habitent, ils ont des petites missions à faire sur le chemin, des fois ils oublient, c'est vraiment marrant en fait.
Mais ça m'avait donné envie, j'ai pas du tout regardé, mais c'était chouette.
C'est assez court, mignon. Donc vraiment, tu peux prendre un quart d'heure pour mater et c'est trop rigolo. Je conseille. C'est pour ça que c'est un épito.
C'est vrai. Ben moi, je vais péter l'ambiance.
Épito.
Avec Netflix France, je m'adresse à vous directement. Parce que.
Lettre ouverte.
Non, mais vous avez spoilé Stranger Things dès le samedi de la diffusion. Donc même pas 24 heures après, vous étiez déjà en train de créer des posts, des tweets, et de partager des trucs, des images. Enfin, ça spoilait vraiment les deux derniers épisodes. Donc calmez-vous, puis respectez un peu le public. Enfin, je sais pas, samedi, c'était très court, donc du coup, je sais pas, attendez au moins lundi, quoi. Limite.
Attendez au moins, je sais pas, deux mois.
T'as été spoilé sur quel réseau social?
Twitter.
Ah oui, mais peut-être que sur Twitter, ils spoilent plus que sur d'autres.
Mais déjà, ils retweetent des gens qui disent « c'était exceptionnel, trop triste qu'il soit mort », des trucs comme ça, tu vois.
Sérieux?
Mais oui.
Oh, zut.
Ah oui.
Là, ou alors, Dustin et Eddie, meilleur duo, dommage qu'on ne les verra plus, tu vois, enfin, ce genre de trucs débiles. Et autrement, ils faisaient des screenshots. Netflix faisait des screenshots de la série. Enfin, ça m'a saoulé.
Ouais.
Où on voit l'affrontement limite entre Eleven et Vecna. Enfin, oh là là.
Un peu dommage.
Donc du coup, c'était la série la plus vue de tous les temps sur votre plateforme. Donc je pense pas qu'il y avait besoin d'en parler si tôt. Tout le monde était déjà au courant.
Peut-être que c'était des trucs programmés qui sont partis un peu trop tôt.
Je sais pas.
Oh, le community manager de mauvais. Il s'est trompé de jour.
Il s'est trompé de jour, c'est pas de vol. À une semaine près, il voulait que ça soit.
Il travaillait pas samedi, il voulait le poster dimanche.
Enfin, je sais pas, mais ça m'a saoulé parce que c'était.
Il s'est fait virer, je pense.
C'était vraiment nul parce que nous, bah, on a dû attendre un tout petit peu, on n'a pas pu le binge-watcher direct, donc du coup, enfin.
Bah, surtout, c'était des pas genre pas des un os. Petit épisode à regarder, c'était un truc où il fallait clairement avoir 2h30
oui.
sous la main.
Ouais, et puis je travaillais le vendredi et je travaillais le samedi. En gros, je travaillais le samedi.
Mais ça, ce sont des contingences, mais je veux dire tout
mais
le
si,
monde.
Mais si, mais j'allais pas regarder
oui,
pour me lever à 6h du matin.
Même sur la France entière, il y a beaucoup de monde qui a sans doute pas tout pu mater dans les 24 heures.
Mais oui.
Impossible. Tout le monde était devant sa télé.
C'est ce que Netflix s'est dit visiblement.
En vrai, je crois que j'ai regardé le jour mai.
Ah.
Alors que j'en avais rien à foutre.
Mauvaise personne.
Comme quoi.
Oh. Et ben ça envoie du lourd.
On va en parler juste après, mais d'abord, il y a une autre série, donc on va passer aux séries. Mathilde, tu as regardé une série solo.
J'ai regardé la saison 10 de Scam. La saison 10 qui sera d'ailleurs la dernière, cette série étant terminée. C'était Scam France. Donc c'était la saison 10 qui comptait 10 épisodes de 24 minutes.
Tu t'es fait spoiler la fin ?
Non.
Dans les 24 heures de la sortie ?
Non. Okay. Non, je l'ai regardé. En plus, j'ai regardé le final aujourd'hui.
Ah oh.
C'était dispo sur France TV Slash et sur Salto en replay. Donc, dans cette nouvelle saison, on suit Anaïs.
Oh, c'est un bon.
Alors là, vous me direz, quoi, c'est qui Anaïs ? On s'en moque. Mais en fait, c'est parce qu'une saison, chanteuse. Un personnage. Non. Une saison, un personnage. Est-ce que c'était Anaïs ?
La chanteuse ?
Ah.
Attends, je suis vraiment en train
vraiment
de bugger.
Un copier-coller de...
Ah, mais pourquoi ? Pourquoi je batte comme ça ?
Le Wiki Scam France Fandom dit que Anaïs est l'héroïne de la saison 2.
Moi, tu t'es trompé que de 8 saisons.
Ah non, c'est aussi l'héroïne de la saison 10.
Ah, bien joué.
Ouh, j'ai... Non mais en fait, j'ai eu un... Ouais, je sais pas, j'ai eu peur. Bon.
Bien.
Donc, cette saison nous parle du perso d'Anaïs, qu'on avait déjà vu dans la saison...
2.
Je sais pas si c'est vraiment dans la saison 2.
Bon, écoute.
Enfin, bon,
apparemment,
elle apparaît
dans la 6.
Et
oui.
Dans la 2, du
bon,
coup.
On l'a vu plus dans les autres saisons, mais c'est un personnage secondaire jusqu'à maintenant, comme là, la plupart du temps dans Scam. Cette saison était super particulière jusqu'à maintenant. Les saisons de Scam abordaient beaucoup de choses, mais rien qui ne me concerne moi, personnellement. Je suis une grosse égocentrique, du coup, je me sentais concernée, mais de loin, tu vois. Que là, bim ! Là, ça parle de moi.
Bah.
Enfin, ça parle de moi, ça parle des femmes, quoi. J'étais
ah, oui, c'est...
plus observatrice avant. J'apprenais des trucs et je me disais « Ah mais oui, attends, c'est ouf !» Mais là, en fait, dans la saison 10, bah, elle parle des femmes. Et je me suis sentie super concernée, touchée. Elle parle un peu de moi, un peu de
ah,
moi.
Attends, tu veux dire que t'étais plus spectatrice quand tu dis... Parce
ouais.
que plus observatrice, je me suis dit que tu regardais plus avant et du coup, je comprends.
Non, j'étais observatrice. Genre, je regardais la série, tu vois, mais j'étais... Enfin, ça me concernait pas
avec
vraiment.
Avec le recul du fait que t'es pas concernée.
Ouais, c'est ça.
Ok, understand.
Et du coup, voilà. Anaïs s'est fait violer par son copain. C'est pas vraiment un spoil, ça se passe dès le début de la saison. C'est la grosse thématique de cette saison. Donc voilà, c'est pas vraiment un spoil. Et elle parle aussi d'Anaïs, et donc la série parle de ça, et elle parle également du fait qu'Anaïs prend conscience de ce qui lui arrive tout au long de la saison. Du fait que ça soit pas normal, qu'elle ouvre les yeux sur la masculinité toxique, sur le sexisme, sur la misogynie, genre des trucs dont avant elle y pensait pas du tout. Elle trouvait ça normal. Dans la série également, les filles se regroupent, échangent sur leurs ressentis, leurs anecdotes, partagent leurs angoisses, elles font sororité. Et c'était vraiment super beau à voir. Personnellement, moi j'ai clairement pleuré à chaque épisode. Genre là, j'ai regardé le 9 tout à l'heure, j'ai pleuré. Et pour une fois, en fait, d'habitude, Scam, il y a un personnage, il y a une résolution et ça se finit bien. Et là, ça se finit bien, mais pas vraiment en fait.
C'est la fin de la série ?
Ouais. D'accord. En fait, l'épisode 9 de la série qui clôture l'arc d'Anaïs, et ben en fait, il se finit pas aussi bien qu'on aimerait qu'il se finisse, mais en fait, c'est ben, il se finit réellement, quoi.
Ça se finit comme dans la vraie vie, ça se finit.
C'est la réalité. Voilà. Et c'est super triste, c'est horrible, mais je comprends qu'ils aient voulu faire ça comme ça pour montrer que ben, voilà, c'était ça, en fait. À 90% du temps, ça va se finir comme ça. Et voilà, sinon c'était vraiment trop bien cette saison. Je suis super triste que Scam se termine parce que bah, c'était 10 saisons vraiment cool qui abordaient beaucoup de choses pour la jeunesse et même pour moi, je trouve. Et voilà, c'est tout. Je suis triste.
Mais tu te souviens encore de la saison 1 ?
Oui, je me souviens encore de la saison 1. Ça parlait de harcèlement.
Tu
ne te
souviendras plus, tu pourras...
Je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps.
Pour la suite, on peut écouter une bande-annonce.
Ok, alors pour commencer, je veux que tu saches que je comprends.
Vous comprenez quoi ?
Le lycée.
Kamala.
Kamala.
Un nouveau t-shirt Avengers, c'est chou.
Elle trouve que je suis une fille bizarre.
T'es bizarre.
Les garçons. Excuse-moi.
Ouais.
Tu marches sur ma chemise.
Désolée.
Alors tu t'évades par la fenêtre dans ton petit monde imaginaire. Kamala ? Hé hey, t'es là ? Je t'en prie, concentre-toi.
Je vais devoir découvrir tout mon avenir avant le déjeuner ou... Parce que... Ils ont peut-être pas tort. Je passe mon temps à vivre dans un monde imaginaire.
Ce n'est pas toi, cette tenue.
Et c'est pas vraiment les filles comme moi vivant à Jersey City qui sauvent le monde. C'était dans mon imagination, ça aussi.
Il t'est arrivé quelque chose ?
Non, pourquoi ? T'as entendu parler de moi ?
Kamala ? Quel effet ça fait ?
Cosmique. J'ai toujours cru que je voulais ce genre de vie. Mais j'avais jamais imaginé tout ça.
Est-ce que tu sais au moins ce que tu es ?
Je suis une super-héroïne.
Et cette chanson est incroyable. Vous avez reconnu...
Blinded by the Light.
C'est un peu bafouillé. Okay. C'était Miss Marvel, la saison 1, qui compte 6 épisodes d'environ 50 minutes. Ça avait commencé le 8 juin, évidemment, sur Disney+. Et on l'a vu... Tous les trois, le résumé, c'est...
Moi, je veux bien.
Ouais,
moi,
bah,
je veux
bien. Damien lit rarement les résumés.
C'est vrai, il fait pas grand-chose.
Oh. Oh.
Donc, en fait, quand je me propose, c'est là où je me fais tailler.
C'est ça.
Ce qui est un très mauvais choix, du coup.
T'es pas une plante, ça marche pas.
Plein d'autres choses qui se font tailler avec des plantes. Des rideaux, par exemple. Alors, le résumé de Miss Marvel, c'est... Kamala Khan est une adolescente fan de Carol Danvers. Mais qui est Carol Danvers ?
Danvers.
Carol Danvers.
Ça dit que ça c'est regarde Captain tout en VO,
Marvel.
Mais ça dit Carol Danvers.
Bah, du coup, je prononce à la française. Donc, Carol Danvers. Elle vit dans le New Jersey, mais elle peine à trouver sa place à la maison comme au lycée jusqu'à ce qu'elle découvre un bracelet appartenant à sa famille. C'est sa grand-mère, je crois, qui lui envoie.
Oui.
Qui lui confère des super pouvoirs semblables à ceux de ses héros, notamment de son héroïne.
Qui veut donner son avis ?
Moi, j'ai mis des plus, des moins. Damien, il n'a rien écrit, il n'a pas à parler. À moi d'abord.
Mais vas-y, Mathilde, tu as le bâton de la parole.
Merci. J'ai bien aimé cette série. Y a des plus et il y a des moins. On va commencer par les plus. Kamala est une ado, tout ce qu'il y a de plus normal, et on s'y attache très très vite. Moi, je l'ai trouvée super attachante.
C'est
elle
vrai.
Était trop... Trop tête en l'air, trop ado. Enfin, vraiment, on aurait dit moi quand j'avais son âge.
C'est vraiment pas une ado.
C'était vraiment n'importe quoi.
Ado, quoi. Ouais.
Hein ?
Oui.
C'est vraiment ambiance série pour ado et tout. C'est...
Oui, mais elle est pas trop, tu vois. Genre, c'est pas un gros stéréotype ou des trucs comme ça. Genre, ou
elle
alors.
Elle est pas très caricaturale.
Ouais.
Elle
est...
C'est vrai.
Sinon, j'ai beaucoup aimé le côté géopolitique sur l'histoire de l'Inde et du Pakistan et la partition était très bien expliquée.
Une carte.
Non, mais j'ai été voir après sur Internet les cartes.
Mmh.
C'était très bien expliqué la partie sur la partition. Oula. Je crois que toute cette partie autour de l'histoire de sa famille est un des points que moi j'ai le plus apprécié. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a permis de mettre en lumière un fait historique peu. Ça permet de mettre en lumière un fait historique peu glorieux dont je n'avais pas connaissance personnellement.
Et puis ça ajoute un peu de profondeur à l'histoire parce que si tu lui enlèves ça.
Oui.
Bon. Ben, c'est intéressant,
oui.
Mais...
Moi, c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'ambiance visuelle et musicale. J'ai trouvé ça cool.
Oui.
Et en négatif, parce que bah, y a forcément un petit peu de négatif, j'ai pas du tout compris la mythologie autour des djinns. Je sais plus l'autre nom. Les...
Les clandestins.
Les clandestins.
Je crois que clandestin, c'est pas un mot, c'est pas le mot clandestin, c'est le clan destin.
Non,
c'est les clandestins.
J'ai vu un drôle, ça s'écrivait comme ça.
Non, c'est les clandestins. T'es parce sûr. Que oui, non. C'est le mot
clandestin. Parce que du coup, moi, je regardais en VO sous-titré et c'était écrit clandestin okay. en un mot. Après, ouais. C'est les sous-titres, c'est pas forcément fiable à 2000%. Mais...
Donc oui, bah, moi, j'ai pas vraiment compris...
C'est une blague ou pas ?
Non, j'ai vraiment vu
donc,
ça.
Donc moi, j'ai pas vraiment compris la mythologie autour des clandestins, de Jean. Enfin, j'ai pas
compris. Ils viennent d'un autre monde.
Ouais, et clairement, j'ai pas compris toute l'intrigue autour d'eux et c'était fouillis, étrange.
C'est de la magie, qu'est-ce que vous
voulez ? Non, mais stop.
T'es pas précis tout le temps.
Au final, j'ai aimé la diversité que propose cette série, mais tout le côté magie et intégration au MCU, je sais pas trop où est-ce que... Enfin, en gros, ça aurait pu être une série qui avait rien à voir avec le reste du Marvel Universe.
C'est ça vrai, mais on dit ça de un peu toutes les séries Marvel récentes, et du coup...
Bah oui, mais du coup, je comprends pas comment
Je pense que ça veut dire qu'elles sont bien, non ? Enfin, tout n'a pas forcément besoin d'être tout interconnecté tout le temps. Enfin, je sais pas.
Moi je suis un peu d'accord. Moi j'ai noté la même chose, que le fait que ça soit encore une nouvelle mythologie avec un nouveau peuple provenant d'une nouvelle dimension, qu'il y avait tout plein de trucs à découvrir qui n'étaient reliés à rien à part au fait que Kamala est fan de Captain Marvel. Il y a rien.
Il y a une fin qui...
Oui, la fin. Mais la fin, elle sert juste de teaser
au film. C'est pour le
film
de Captain Marvel.
The Marvels. Qui est l'autre nom de Captain Marvel 2. Mais, du coup, j'ai pas réussi à m'impliquer. Mais de la même manière que pour Moon Knight, en fait, j'étais pas à fond parce que je comprends pas ce que ça fout dans le MCU. Et alors que si c'était une série qui n'était pas MCU, qui était peut-être sortie ailleurs ou je sais pas quoi, j'aurais trouvé ça vachement bien. J'aurais dit bah cool, on nous parle d'une dimension parallèle, mais là on nous dit en fait y a une dimension qui vit un peu dans l'ombre, à l'envers. Elle veut détruire la vôtre et prendre la place.
C'est comme Stranger Things.
Ouais, bah voilà, bah, tu vois, exactement, limite, tu vois, mais Stranger Things, comme c'est dans
l'MCU... Stranger Things, ça pourrait être dans le MCU, maintenant. On en est, demain, on va dire, mais en fait, c'était le MCU, non. Ça aussi.
Mais par contre, peut-être que vous allez être blasté quand ça va être très très bien intégré à la fin, parce que là, peut-être qu'on voit juste des petits bouts et on trouve tout est en vrac, et peut-être il va y avoir des trucs qui vont...
Je suis très étonné que Damien soit aussi positif et genre, oh, bah oui, moi je vais tout comprendre.
Damien est défenseur du MCU.
Non, mais moi, c'est juste, je trouve la série bien, du coup, le fait qu'elle soit pas intégrée au reste me dérange pas des masses.
De ce point de vue là, le seul truc qui se rattache, c'est qu'on voit qu'on nous parle encore d'une dimension parallèle, d'un autre multivers, on va dire. Et donc du coup, comme en plus maintenant c'est officiel, il y a The Multiverse Saga, ça peut se rattacher aussi comme ça, quoi. Et je pense vraiment, bon, du coup je fais une petite digression sur ce qu'on a dit au début, mais il y avait vraiment besoin de ça plus tôt, en fait, d'avoir le calendrier et puis l'aboutissement du MCU, des phases 4, 5, 6, de nous dire, oui, on parle du multivers et ça va se finir là-dessus, quoi. Parce que sinon, Miss Marvel a terminé avant ses annonces et ça faisait encore, on sait pas de quoi vous parlez. Donc, enfin voilà, c'est mon avis. Autrement, j'ai trouvé la mise en scène très chouette et cohérente avec l'ambiance teenage du programme. C'est ce que disait Mathilde. De ce point de vue-là, je trouve que c'est mieux fait que Spider-Man Homecoming.
Ah ouais.
Il y a vraiment une patte teenage, quoi. Spider-Man Homecoming, c'était teenage, mais c'est on fait une mise en scène un peu classique, cause quand même.
Mais en fait, je trouve que ça se perd à certains moments de la série. Toute la partie où ils sont au Pakistan, toute cette partie teenage, elle s'en va.
Elle serait peut-être un peu moins cohérente, surtout que ça parle de choses très graves.
C'est tout de suite un peu plus vénère.
Je suis pas sûr que les personnes pakistanaises.
Ah non, mais je parle pas pendant la partition. Je parle vraiment quand elle est en train de se battre contre les méchants.
Ah oui. Les filles quand même et tout.
Cette partie là, ils sont vraiment.
Ils
enlèvent de ça.
Il y a un type qui est mort pour qu'il puisse s'enfuir.
Oui, c'est vrai, il est mort comme ça. Boum, il est tombé là sur elle.
J'ai beaucoup aimé le traitement de l'histoire du Pakistan, dont j'ignorais totalement tout. J'y reviendrai plus tard. J'ai aimé les personnages. Kamala, elle est trop cool. Elle est sympa, elle est drôle. Et en même temps, elle est badass. Quand elle fait la bagarre, mine de rien, elle en voit, quoi. Elle est pas, oh là là, je sais pas trop me battre. C'est direct, je sais pas trop faire, mais j'y vais, quoi. Mieux, ouais. J'ai bien aimé la mise en lumière de la communauté musulmane qui m'a semblé honnête et sans être caricatural et exotique. On aurait pu faire vraiment un truc hyper cliché en mode oh là là, ce sont des gens très bienveillants qui mangent du couscous, un truc horrible, tu vois.
Pour le coup, ce qui est vraiment caricatural, c'est les méchants. Enfin, la méchante.
Oui.
La méchante de Damage Control.
Damage Control.
Parce que l'autre, elle est pas vraiment méchante en fait. Elle veut sauver sa vie et sa famille.
Oui, mais elle, j'ai rien compris à ses motivations. Du coup.
Elle veut rentrer dans son univers.
Oui,
mais non, elle veut parce qu'elle sait que si elle rentre dans son univers, ça a tué l'autre univers.
Elle ne savait pas.
elle est bizarre.
Qu'elle allait pouvoir gérer. Parce qu'au moment où ça... Elle se dit, oh non, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, elle se dit, oh là là, en plus, mon fils, il va mourir. Et donc, elle sauve en futur.
On n'a pas vu la même série.
Okay. Je crois que Damien, t'as vraiment mieux compris que moi, cette série.
Moi, j'ai rien compris. Assez bon, là, j'étais genre perdu.
Bon, alors, si vous voulez, je peux vous faire le résumé. Alors, épisode 1.
Et puis, en fait, sur le papier, bah, j'ai trouvé que c'était une série très intelligente et honnête et bien faite. Mais au final, je me suis parfois ennuyé. Et comme on disait, c'est parce que ça manque un peu d'intégration MCU et ça m'a pas hyper intéressé. À mes yeux, cette série Miss Marvel joue à 100% le rôle que l'art doit tenir, parce que c'est pas un simple divertissement, elle est instructive, parce que je connaissais rien du tout à la naissance de ce pays et à la violence de la partition et de cette histoire. Et donc, d'une part, la série met en lumière une communauté et un peuple dont l'histoire est méconnue, et d'autre part, elle raconte un segment très violent de l'histoire du monde. Donc je trouve ça très bien quand une série de divertissement soudainement nous apprend des trucs. Parce que c'est pas non plus dit « on va vous apprendre l'histoire du Pakistan » ou...
C'est bien fait, quoi.
Ouais, c'est bien fait.
Ouais.
En plus, c'est de point de vue de personnes qui ont assisté. Et ça, c'est intelligent.
Oui, c'est vrai. Voilou, sur mon avis.
Voilou.
On peut passer à la suite.
On va parler d'une série dont on a déjà parlé.
Bah oui, mais moi j'en avais pas parlé parce que j'avais pas tout vu. C'est. Attends.
Et on adore le titre de cette série. Allez, dis-le.
Why are you like this? Et bah moi j'ai regardé aussi. Parce qu'il y a 2 mois, on en avait parlé.
Oui, exactement.
Parce que vous l'aviez regardé. Et moi j'avais vu seulement les 3 premiers épisodes. Parce qu'il y a la saison 1 qui en compte 6. De 24 minutes, qui est sorti le 16 février 2021 sur Netflix. C'est une série qui parle de 3 bons amis d'une vingtaine. Moi, je pense un petit peu plus en vrai, plutôt genre 25, mais bon.
Dans la vingtaine, quoi.
Entre 20 et 30.
Là, c'est écrit d'une vingtaine d'années.
Bah, d'une vingtaine, c'est entre 20 et 30.
D'accord. En tout cas, il gère travail, plaisir, politique, identitaire et nuit de folie dans cette satire inclusive de la vie jeune à Melbourne.
C'était exactement le même résumé qu'il y avait quand j'en ai parlé.
Ah oui, voilà, en fait, je l'ai copié-collé.
Parce que nuit de folie...
Nuit de folie.
C'est le titre d'une chanson des années 80.
Voilà.
Oui.
Et du coup, j'ai pas grand-chose à dire de plus. J'ai trouvé que la saison était très drôle. J'avais déjà vu les 3 premiers épisodes et je les ai quand même rematés. Et je me suis quand même dit que ça... Ça vivait pas très bien le remettage. Oui, c'est ce que j'ai mis derrière.
Ah bon?
Oui, en fait, les blagues, elles marchent bien la première fois. Par contre, comme c'est...
Moi, je l'ai vu une fois avec toi, une fois toute seule, une fois avec Emilien. Et
toi, trois fois.
Et c'est toujours bien passé.
Ah ouais? Bon, bah, c'est peut-être moi, perso, qui suis pas toujours très réceptif à ces
blagues. Pas très redondant, ouais.
J'ai trouvé que c'était un peu redondant pour le coup. Et le début de saison, je l'ai trouvé vraiment mieux que la fin, pour autant.
Je suis d'accord aussi.
Ouais, le début est mieux.
Je trouve que la fin, ils se perdent à essayer... Enfin, c'est ce qu'ils font tout le long, parler et de sujets sociétaux et faire des blagues. Et je trouve que la fin, ça, il n'y a plus assez de blagues. Et du coup, ça devient...
Et puis ça devient de plus en plus craignos aussi.
Oui, en fait, ça finit pas bien non plus. Ça... Enfin...
Ils pètent tous un peu des boulons. Hein. Ça devient vraiment craignos à la fin.
C'est vrai. Moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'était rigolo à regarder. Je le regarderai pas forcément une seconde fois.
Si une
saison 2, je pense que je la mate aussi, ouais. Et il parle de développement en plus, donc...
C'est vrai.
Ah oui, c'est vrai.
De manière très brève.
Eh ben, d'accord. Damien, tu vas parler d'un animé maintenant, cette fois. On enchaîne avec les animés.
Oui, bah pas tous, mais une partie. Juste un, en fait. Qui s'appelle Vinland Saga. C'est la saison 1, qui est sur Crunchyroll. Il y a 24
et
épisodes
Netflix.
Et 24 épisodes de 24 minutes, ça m'a perdu. C'est sorti en 2019, je sais pas sur quelle plateforme, c'est sorti en premier.
Je vais checker.
Ok. Alors, le résumé. Depuis Kaskelad, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se venger, mais bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions périlleuses et combats afin d'obtenir des duels contre l'homme qu'il est plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant, jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde différemment. Donc,
c'est compliqué comme résumé, j'ai pas tout compris.
C'est parce que c'est assez compliqué au niveau de l'histoire.
Ah, c'est bête parce qu'il faudrait que je puisse expliquer ce manga à quelqu'un et là j'ai rien compris.
Je te conseille de mater l'animé.
Ou de le lire quoi, parce que je peux le lire aussi.
Oui, tu peux aussi.
Ils sont chers les tomes, 7,50.
Regarde l'animé, t'as déjà un abonnement. du coup, c'est une série super, je suis très content de l'avoir vue. En vrai, j'étais passé à côté et je sais plus où j'ai vu un commentaire qui disait « Vinland Saga, enfin sur Crunchyroll, cette masterclass ».
Cette masterclass,
et ça m'a convaincu.
Ça, ça donne envie.
Alors qu'en fait, pas trop, mais du coup, je suis tombé sur les dessins qui ressemblent beaucoup à ceux de l'Attaque des Titans.
Ça, ça me plaît pas trop.
Et comme c'est le même studio, c'est assez logique. Et moi, ça m'a un peu motivé à regarder parce que j'avais bien aimé l'animé de l'Attaque des Titans.
Il y a pas de Titans.
Il y a pas de Titans.
Ah ça.
Il y a des gens très grands parce que c'est des Vikings, mais il y a pas de Titans. alors du coup, c'est bien pour plein de raisons, notamment parce que Thorfinn, c'est un super personnage. Il a une évolution assez triste et super crédible, et on est vraiment avec lui tout le long. On le suit donc depuis qu'il est tout petit jusqu'à ce qu'il devienne un grand ado, on va dire. Et l'histoire, elle est à la fois touchante et triste, et des fois un peu énervante de le voir galérer dans des trucs où... Bah, c'est des Vikings à l'époque, donc il y a des trucs... En vrai, c'est assez violent, psychologiquement et physiquement, donc c'est assez vénère à regarder. Ce qui fait aussi que c'est bien, c'est que même si Thorfinn est très bien, tous les autres persos secondaires, ils sont ultra bien écrits et ils ont tous une backstory vraiment bien dans le sens, elle est construite, expliquée et ça s'intègre bien avec l'histoire de Thorfinn. Il y a aucun creux dans l'histoire, il n'y a pas d'épisode filler, tout est vraiment, enfin, purement, comment dire, il n'y a aucun moment où il y a un épisode où tu peux t'endormir un peu.
Mais c'est parce que c'est pas un shonen, non?
Oui, c'est un seinen.
C'est un seinen. C'est du coup c'est
fait pour les adultes.
C'est pour les c'est pas vraiment pour les adultes, ça à partir
c'est
de 15 ans, je dirais.
C'est clairement plus mature, ouais. Mais par contre c'est une gentille, hein, c'est pas non plus.
Oui, horrible. Mais c'est en gros les seinen, c'est pas que c'est méchant, c'est que psychologiquement, il faut que tu sois quand même mature pour comprendre les événements et pouvoir ne pas être choqué par certaines choses. Et ça on met à partir de 16 ans.
Bah, c'est une petite vibe Game of Thrones pour le coup, un peu, sur le côté historique et tout. Enfin, bon, Game of Thrones, c'est pas historique, mais...
Ah bon ?
Non. D'ailleurs, je disais dans la suite que je sais pas à quel point c'est précis au niveau historique, mais du coup, c'est rigolo de voir des Vikings traités dans un animé. En plus, on se balade en Islande, ensuite on va en Norvège, ensuite ils se baladent un petit peu au Danemark, ensuite ils se baladent dans plein d'autres endroits. L'Angleterre, la France, ils vont au bord de la Loire.
Oh.
C'est vrai que c'est vraiment
au
étonnant
Moyen-Âge,
comme
quoi.
Thématique.
Ouais, c'est un choix surprenant. Et la fin de saison, elle est, y a un vrai cliffhanger de fou. Et du coup, c'est trop cool. Je sais pas quand est-ce que sort la suite, mais il va falloir que ça sorte vite parce que sinon, je vais être obligé de lire des mangas.
Et ils coûtent un peu cher. Mais par contre, ils sont beaux. Franchement, ils font très beau dans une bibliothèque.
Et j'espère que Thorfinn va réussir à aller à Vinland. Vinland, c'est la terre rêvée de tous les Vikings depuis le début parce qu'il n'y a pas d'esclavage et que les terres sont fertiles.
Ça existe vraiment dans la réalité ou pas ?
Oui, c'est les États-Unis.
D'accord.
Mais avant que ça soit les États-Unis, parce qu'on est à l'époque des Vikings, donc je pense à peu près vers l'an 1000. Donc il y a juste des Indiens, quoi, globalement. Des Indiens d'Amérique.
Ça m'a intrigué. Je pense que j'essaierai de le lire ou de le regarder.
Tu disais que t'attendais la saison 2 ?
Oui.
2023.
Non.
Au Japon.
Non.
Mais on est toujours... Bah, c'est avec Crunch,
tout
normalement, c'est en simultané maintenant.
Sur Crunchyroll, vous faites pas avoir. Ça n'est pas la saison 1, c'est la saison 2.
Ouais, mais
et c'est malgré tout la saison 1.
C'est comme dans Tokyo Revengers. Il faut regarder la saison 2, mais en fait, c'est la saison 1. C'est juste que la version japonaise est marquée comme une saison 2. Les gars... De Crunchyroll, si vous nous entendez, arrêtez, faites les choses bien.
Bah,
non mais
quand il y a la saison 2 qui va sortir, ça va
mais
être
non mais c'est surtout que quand tu vas sur l'anime, il y a marqué qu'il y a deux saisons et qu'il y a genre je sais pas, 50.
Il y a 6 saisons.
58 épisodes à regarder. Il y a marqué qu'il y a 58 épisodes. Alors toi, t'es trop en mode.
C'est beaucoup.
Yes! Mmh. Mais non, il n'y a pas du tout ça. Il y en a 20.
Et c'est diffusé au Japon sur Prime Video.
Mmh.
Voilà.
C'est étonnant.
C'est marrant.
Mmh. C'est pour ça que c'était sur Netflix, peut-être aussi.
Ouais, ils sont peut-être un peu plus battus pour les droits.
Mmh. Voilà, il y aura une saison 3 et 4. Pour adapter l'intégralité du manga. Voilà.
Qui fait combien de tomes ?
Il y en a une vingtaine, je crois.
Je crois qu'on était autour, pas loin, ouais.
À voir plus, en fait.
26.
Ouais.
Je viens de regarder sur Wikipédia.
Il faut pas regarder sur Wikipédia, il faut aller sur Manga News.
Parce que Mathilde gagne de l'argent chaque fois que tu vas sur Manga
News. Pas du tout.
C'est le café le site.
Je sais pas comment ça s'écrit.
Manga News.
Il y a vraiment.
T'es dessus, plus... c'est écrit. Quoi? Vinland Saga, c'est V-I-N-L-A-N-D.
Ah, c'est ça. C'est comme ça que
Saga
ça s'écrit.
Saga comme Sega, mais avec deux A à la place du E.
Est-ce qu'on enchaîne?
Oui.
Oui, on enchaîne, ouais.
Parlons de Boo Beach.
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 Boo Beach.
Boo Beach. Ça veut
c'est
dire.
C'est Mathilde qui est surprise du nom, alors que celle qui a regardé.
Ça veut dire. Boo Beach. Boo Beach, c'est une mini-série.
C'est pas une traduction.
Pas répéter le titre.
Boo comme les fantômes et Beach comme
la plage.
Les gros mots. Le gros mot pour nommer des personnes. Une mini-série de 8 épisodes de 25 minutes sortie le 8 juillet 2022 sur Netflix est une nouveauté.
Oh.
Yo.
Erika et Zoé n'ont pas profité du lycée. Pas de sortie, pas de soirée, pas de copains. Mais à quelques mois de la fin de l'année, elle décide de passer à l'action, de se faire d'incroyables souvenirs de lycéenne. C'était sans compter la mort de l'une d'elles.
Ah oui, d'accord.
Ah oui. L'ambiance est vite pétée, quoi.
Voilà, je vous présente Boo Beach.
Ah, et du coup, c'est un fantôme.
Bah oui.
Bah oui, beaucoup de fantômes.
Oui, mais ça peut être comme
bon, si
la
vous voulez,
que fait la terre et l'eau.
Si vous voulez voir une série courte et amusante, je vous conseille vraiment de regarder Boo Beach. Lana Condor, qui joue Erika, et Zoé Coletti, qui joue Gia, forment un duo super cool pour cette série teenage totalement décalée. Lana Condor, si vous ne savez pas qui c'est, elle jouait dans PS I Love You.
Elle a un nom très marrant.
Et dans d'autres
comme
choses.
Comme les oiseaux.
Et ouais. C'est vraiment l'actrice que je trouve cool. Le début de la série vous donnera forcément envie de regarder la suite. Il faut dire que mourir écrasé par un élan ne laisse personne.
Un élan. Le gros animal.
Oui.
Wow. Désolée, je rigole toute seule.
Ne laisse personne indifférent. Je pense que c'est vraiment.
Ouais, non, mais mourir écrasé par un élan, c'est particulier. Et devenir un fantôme non plus, évidemment. Un fantôme incarné, je tiens à dire. Non, enfin oui.
Incarné, ça veut dire qu'elle est dans des gens.
Ouais, apparemment.
Mais t'as regardé cette série ou pas ?
Oui, oui, oui. Les péripéties loufoques s'enchaînent et nos deux héroïnes n'ont vraiment aucun filtre, ce qui est super rafraîchissant, je trouve. Typiquement, quand il y en a une qui se rend compte qu'elle a un fantôme, elle continue à manger, à boire, et du coup, elle est aux toilettes, et elle parle très longuement du fait que l'autre continue à aller aux toilettes. Genre, tu crois que c'est normal qu'en tant que fantôme, je puisse aller faire pipi ?
C'est vrai que c'est surprenant.
Ça dure des heures.
Oui, elle a plus de vessie.
Parce qu'elle fait du pipi de fantôme.
Attends, elle est incarnée du coup.
C'est amusant. Vous avez exactement les mêmes conversations que ces deux jeunes filles dans la série.
Non, mais où va son pipi ? Est-ce que son pipi apparaît ?
Mais elle est incarnée, donc.
Et ben voilà.
Elle est dans une personne.
Ben elle regarde la série. C'est marrant.
Est-ce qu'elle est incarnée dans un élan ?
Non. Par contre, il y a un élan qui l'écrase.
Un élan qui fait pipi dans le lycée, c'est bizarre. Oh bah ça passe pas inaperçu, quoi.
Voilà. Le twist de la série est super bien amené. Moi, j'avais absolument rien vu venir.
Elle
le final
mort depuis le
est
début.
Peut-être un peu moins bien amené. Mais je comprends que la série ait voulu rester positive et amusante. Clairement, j'ai adoré. Foncé. Et en plus, ça a été créé par la personne qui a fait On My Block. On My Block. J'adorais cette série. C'est fini.
On My Block.
Et ben voilà, c'est la même personne qui a créé cette série.
C'est la chanson.
C'était trop bien.
Oui, c'est Richie.
Quoi ?
Lionel Richie. Voilà, pardon.
Non, c'était pas ça, la créatrice de My Block.
Non, mais j'étais sur la blague de Tamir.
Ok.
Je me rappelle plus d'On My Block.
Regardez Boo Beach. D'ailleurs, je l'ai conseillé.
Est-ce que c'est un truc avec des jeunes qui font du hip-hop ? Parce que On My Block, ça fait un peu.
C'est avec des jeunes dans une cité. Presque. Mais aussi, je vous en avais parlé déjà dans le récapito, c'est genre pour ces jeunes-là, quand ils entendent le bruit d'un flingue, genre un pistolet, ils rigolent pour savoir quel bruit c'est. Non, c'est, on est aux États-Unis. Ils arrivent à reconnaître les balles, c'est leur truc.
Mais oui, c'était enfin, la description que tu m'avais faite donnait envie.
Ouais, bah regarde, vraiment, c'est trop trop bien. Et regardez-vous Beach, c'est trop bien. D'ailleurs, je l'ai conseillé à quelqu'un la semaine dernière, non, quand c'est sorti, la semaine où je l'ai regardé. Et cette personne l'a regardé en 24 heures et a trouvé ça trop cool. Voilà. Donc ça prouve que mes conseils sont de bons conseils.
Et oui, c'est pour ça qu'on fait un podcast.
Oh, merci.
On va enchaîner avec une autre nouveauté, c'est Stranger Things saison 4 partie 2 Quoi ?
Bah c'est plus une nouveauté.
Bah si, c'était sorti en juillet, 1er juillet 2022. Il y a un épisode d'1h25 et un deuxième épisode de 2h19, ça s'appelle des films. c'était sur Netflix et le résumé. Alors, Hawkins, Max, Lucas, Steve, Nancy, Robin et Erika décident de mettre à exécution leur plan en attaquant Vecna à la maison des Krill.
C'est quoi cette voix ? En Californie, en Mike, Californie. Will, Jonathan.
Mais c'est quoi ce court-circuit de...
C'est qui le dernier ?
Argyle. C'est le copain Stone de...
Il s'appelle qui fait Argyle. De la
pote. Oui, j'ai découvert qu'il s'appelait Argyle en écrivant le résumé.
Oups.
Argyle.
Argyle. Pour lui, en vrai.
Donc, tu lis, t'arrêtes de lire, pardon.
Je voulais juste aller dans la même vitesse que toi.
Donc, les loustiques essayent de sauver 11, toujours en compagnie du professeur Brenner. Et en Russie, il y a Happy, Joyce, Murray,
Yuri. Hopper.
J'ai dit quoi?
Happy, c'est un perso de Fairy Tail. Ah, oh, quoi qu'il y ait une série où il y a un gars qui ressemble à Hopper. Et,
C'est pas le mec de... Je me suis vu le petit chat bleu avec des...
Moi, oui, bah non, c'est Hooper, bien sûr, Joyce Murray, Yuri et Antonov essayent de s'échapper de la prison soviétique infestée de créatures du monde à l'envers. Qui veut commencer ? Est-ce que je commence parce que je suis le seul qui a bien aimé ?
Bah ouais.
Bah ouais, vas-y, hein. Après moi je vais fracasser la tête de ce truc.
Mais moi j'ai pas dit que j'avais pas aimé.
Bah t'as rien écrit, donc du coup on sait pas trop ce que t'en penses.
C'est vrai.
Moi j'ai adoré ce format. Bizarrement. En fait, on dirait une sorte de director's cut qui s'émancipe de toute contrainte de narration, de rythme et d'enjeu. C'est vraiment en roue libre. Et j'ai trouvé ça cool. Alors, ça génère plein de problèmes, hein, de temporalité principalement. Il y a des péripéties qui sont beaucoup, beaucoup trop longues. Par exemple, les trois qui sont étranglés. Bah vraiment,
ils y sont toujours, je pense.
On peut pas être étranglé pendant trois quarts d'heure avant qu'on meure.
Moi, je pense qu'ils y sont toujours. Moi, je pense qu'ils sont toujours. Très long.
Oui, ouais, c'est vrai.
Oui, mais bon.
Mais c'est un format original. C'est un peu un peu trois climax hyper longs dans la forme. Et ça me fait penser à la narration d'un livre, en fait. Un livre aurait ce truc-là. Mmh. Où t'as le climax qui dure 300 pages.
Si j'ai pas envie de lire ce livre.
Mais t'en lis des livres où la narration d'un roman.
Tu crois que je lis des livres où l'action se conclut sur 300 pages? Genre, un livre de 600 pages, il y aurait 300 pages que pour la conclusion. Bah, la personne, elle
après,
sait pas écrire.
C'était plus une remarque.
En plus, c'est pas cool parce que quand on a éteint la télé, t'étais d'accord avec moi.
Non, je t'ai dit que ça marcherait si c'était des petits chapitres de livres, mais pas sur 300 pages quand même.
Et donc, bon, en tout
cas. C'est la taille d'un livre.
Mais il y a des livres qui n'ont pas de chapitres. Hein.
J'ai préféré cette seconde partie à la première. Il y a une contre-discussion, donc restez avec moi. Moi, je parle des séries. J'ai préféré cette partie à la première parce que c'était moins long et il y avait des trucs que j'avais pas trop aimé dans la première. Je vous invite à écouter l'épisode
de mois dernier.
C'est vrai que la contrepartie des épisodes longs, c'est que par contre, tout est expédié en une seule fois, quoi.
C'est peut-être aussi parce qu'en fait, comme je préfère les films aux séries, enfin, je préfère le format film, bah, du coup, quand ça s'en rapproche, bah, j'accroche plus.
Dedans, ouais.
Je trouve que Noah Schnapp, l'acteur qui interprète Will, est toujours le meilleur acteur de la série. La scène dans la voiture.
J'ai pleuré.
Est incroyable. Elle est bouleversante. Et il montre que c'est vraiment le meilleur de la série.
J'avoue que ça s'est lancé là-dessus. J'ai pleuré. Et je me suis dit, bon, voilà. Ça
c'est fait. Au début de l'épisode.
Ouais, c'est vers le début de l'épisode.
Enfin, c'est ouf. Et on voit bien que Mike est un des pires persos de la série parce qu'il ne voit rien.
Bah, c'est pas un
défi. Il voit même pas que son meilleur ami est en train de chialer à 2 cm
d'eux. Bah, tout le monde peut pas être gentil, donc il y a des gens, ils sont un peu moins empathiques.
Voilà. Non, et puis en fait, tout le monde dit que il sert à rien, alors que je trouve qu'il a les scènes les plus émouvantes et les plus sincères de la saison. Ça discute. Non, je parle de Will. Toujours de Will.
Je pense que Will n'est pas utilisé à sa juste valeur dans cette série.
Mais apparemment, les frères Duffer, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, ont dit qu'il serait beaucoup très important dans la saison 5.
Pas très étonnant.
Mais là, en tout cas, même la discussion avec son frère, avec Jonathan, où Jonathan lui dit, tu sais, quand t'étais petit, tu venais me voir tout le temps. Enfin, elle est trop trop bien cette scène aussi. Ouais. Je trouve qu'il allait vraiment les scènes les plus touchantes.
Après, c'était plus féminin et c'était pas forcément gênant. Pour le coup, les persos qui avaient le plus d'action, c'était plutôt des...
Ah oui, ça, c'était super cool, ouais. Malgré tout.
Et vu la quantité de personnages, ils peuvent pas juste faire...
Bah non, il y a trop de persos.
Oui, c'est ça. Il y a un peu trop de persos, on va y venir. J'ai quelques reproches, néanmoins. On dirait que les auteurs ne savent pas quoi faire des pouvoirs télékinésiques de 11. Par tout faire valdinguer... Et pousser tout le monde et faire des combats de je te pousse le plus loin, bah ça tourne un peu en rond, je trouve. Dans la... Et puis la mise en scène n'est pas très inspirée.
Après, elle a juste des pouvoirs.
Télékinésie.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, mais il y a peut-être moyen de s'amuser un peu plus avec, quoi. Mm. Là, c'est vraiment j'arrive, je te pousse, ah bah je te pousse plus loin, ah bah je te repousse.
Pour ça, faire tourner des éoliennes.
Et pourrait faire.
Produire de l'électricité. Mais ça, ils le font un peu quand même.
Ouais.
Et puis,
en plus, c'est un podcast, donc il ne faut pas faire des descriptions visuelles.
Et puis surtout, on arrive au point sensible de cette deuxième partie. Il fallait tuer des personnages quand même, dis donc. Non, mais c'est vrai.
Bah oui.
Ça aurait été déchirant, mais bon, ça semblait inévitable. Il y avait même des indices qui laissaient présager que des personnages allaient mourir. Je pense évidemment à Max ou Steve. Les deux étaient arrivés à la fin de leurs arcs. Steve a même une scène d'adieu avec Nancy, donc bon, tuer juste Eddie, qui était un nouveau personnage, je trouve que c'est pas assez suffisant. Et il y a même Millie Bobby Brown qui s'en est plaint dans une vidéo du média The Wrap, j'ai vu ça, où elle a dit « Les frères Duffer sont deux sensibles qui ne veulent tuer personne. Nous devons faire comme dans Game of Thrones, nous devons avoir l'état d'esprit de Game of Thrones. » Donc même elle, apparemment, elle voulait que son personnage meure.
Non, mais par contre...
Ouais, peut-être marre aussi.
Alors, je veux bien, mais bon, ça serait quand même embêtant pour la suite. Hein. Du coup,
bah même pour
je
cette
pense
résolution.
Je pense qu'au final, ils sont foutus là pour le coup.
Ouais. Mais bon.
Bon, à moi.
Je crois que je l'ai pas noté, mais de mémoire, les gars ont répondu. On a réfléchi à toutes les possibilités. Voilà ce qu'on a, on a trouvé la meilleure. Je trouve que c'est pas vrai.
Moi, je peux parler maintenant.
Vas-y.
Ok. Bon, j'aime Stranger Things. Je l'aime, mais faut être réaliste et aimer quelque chose, ça veut pas dire être aveugle quand les choses tournent mal. Je le dis pas pour toi.
Elle le dit en me regardant bien dans les yeux quand même.
Alors certes, les protagonistes ne se sont pas rassemblés à Hawkins comme je l'avais prévu le mois dernier pour vaincre le méchant. Et oui, dans un sens, ils ont perdu. Mais quand on veut faire perdre une équipe, il faut vraiment les faire perdre. Pas à moitié, pas genre « vous avez perdu, mais pas trop quand même, ça va aller ». L'émotion du perdant, elle débarque quand il n'y a plus d'espoir, plus aucune. Comme si, en gros, on avait l'impression que les gens, ils n'avaient pas vu Infinity War. Enfin, tu vois, dans Infinity War, ils n'avaient qu'à laisser la moitié de la population. Oui, mais il y a quand même les plus gros des gens qui sont morts. Oui, mais il y a quand même la plus grosse partie qui sont morts.
Bah, la moitié.
Oui, mais la plus grosse partie sont morts. Ceux qui, en gros, étaient le plus utiles.
Ah.
Ah.
Les plus utiles sont morts.
Oui, parce que la moitié restait la
oui,
moitié.
Oui, la moitié sont toujours là, mais la moitié, on s'en moque. En gros, là, c'était un truc où il n'y avait plus aucun espoir. Tu finis le film et t'es... Bon, voilà. On a perdu. On a vraiment perdu.
Bah oui, mais c'est pas forcément le public.
Oh, quand même. Pourquoi c'est pas le public ?
Bah, je pense qu'Infinity War vise plus des gens un peu plus âgés. Stranger Things essaie plus d'être tout public encore. C'est pas super horrifiant, il n'y a pas beaucoup de morts.
Et du coup, il faut dire... Bah, moi, je trouve pas, parce que je trouve que dans cette saison, justement, ils ont voulu faire plus. Il y a des scènes de fusillade, il y a des trucs vraiment plus crades, mais ils tuent personne, quoi. Enfin, déjà, pour commencer, temporellement. Les épisodes déraillent totalement. C'est plus une suspension volontaire d'incrédulité qu'il faut, c'est totalement n'importe quoi. Vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est, on te prend et on te dit, voilà, ça va se passer comme ça, mais ça passe, ça, non. Ça n'a pas de sens. Steve, Nancy et Robin auraient pu mourir étranglés 1000 fois, sans parler de Max, qui, ouais, pareil, hein, je ne sais pas comment on, elle a survécu
avec
à ce truc, mais ça aurait pu durer des millions d'années, je pense.
Après, c'est peut-être que ses pouvoirs, c'est...
Moi, je peux... et je comprends que c'est compliqué de montrer beaucoup de choses en peu de temps. Parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent montrer beaucoup de choses en peu de temps. Mais en fait, il y a d'autres personne qui arrive à faire ça.
Mais pour moi, c'est ce que je disais, c'est parce que ça ressemble à une director's cut où il n'y a personne qui leur a dit, là, en termes de rythme, ça ne marche pas.
Ouais,
Il faut couper des scènes, il faut créer du... que ça aille plus vite, mais que ça marche mieux, et ça ressemble trop... Ou alors, contrainte par une durée d'épisode en disant, vous ne faites pas plus d'une heure et demie d'épisode, et du coup, bah, tu es obligé de cutter pour que ça rentre.
Bah, en fait, je ne sais pas, je sais pas quelle est la bonne réponse, mais en fait, je comprends pas comment ça a pu sortir comme ça. Enfin, c'est des professionnels, c'est quand même une des séries les plus importantes de Netflix. Et je trouve que c'est bâclé, en fait. Je trouve vraiment que c'est nous prendre pour des idiots. Parce que moi, j'étais devant la télé et j'étais genre... j'étais saoulée, en fait. J'avais vraiment l'impression qu'on me prenait pour une idiote. Genre, bah oui, ça fait 30 minutes qu'ils sont en train de se faire étrangler. Là, c'est quoi ce délire? Enfin, ça a pas de sens.
Après, ils disent pas forcément que le temps se... Tu sais pas à quel moment ça reprend dans la narration et tout. Donc
Mais normalement, tu peux pas dire... Enfin là, ça fait vraiment... Oui, en fait, dans un scénario, ça marche.
Mais oui,
quand t'écris, mais quand tu
mais
fais
à l'image,
du montage,
ça marche pas.
Tu t'en rends compte que ça marche pas. Et en principe, là, ça, à la durée, en plus, ça fait vraiment, oui... premier montage, quoi.
Ouais, ça fait ça.
Où tu le montres à des producteurs, à des gens qui disent, bah là, c'est trop long. Ou alors, oui, ils peuvent pas être étranglés pendant 3/4 d'heure.
Donc en gros,
et du coup, là, on recoupe.
Moi, je comprends pas. Et bon, et si on revient au fait de perdre, donc bah, quand on perd, il y a des gens qui meurent, malheureusement, et ils ont décidé que ça soit Eddie. Le décès d'Eddie passe vraiment pour une facilité scénaristique. Genre, il savait vraiment pas quoi faire de ce personnage. S'il était resté en vie, il aurait dû se faire arrêter par la police et juger pour des meurtres qu'il n'avait pas commis. Donc, autant le tuer. Comme ça, l'histoire est réglée. Enfin, ça fait vraiment ça. Créer un personnage aussi sympa pour en faire ça, je trouve ça vraiment méga triste. C'est vraiment une facilité. S'il était resté en vie, ce personnage, ils auraient rien pu en faire, en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. C'est vraiment juste pour ça.
C'est un peu de la fainéantise.
C'est méga de la fainéantise, alors que le personnage était très attachant. Et au final, la vérité, enfin, tout le monde va continuer à croire que c'est un tueur. Même si Justin, il a parlé avec son père. Bah au final, les autres, ils vont continuer à croire que c'est le tueur et qu'il est mort. Et puis basta, c'est fini, tu vois. Pas de justice, aucune justice pour ce personnage. Je trouve ça vraiment triste, en fait. Et Max, alors oui, quand 11 va dans son esprit, elle trouve que du vide. Donc on suppose et on insinue que Max est cérébralement morte. Mais clairement, vous la sentez, la dose d'espoir sur le fait qu'elle va quand même peut-être revenir à un moment donné.
Qu'elle va revenir.
Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment pas honnête.
Si elle revient pas aveugle, par contre, il faut... Elle peut pas revenir coucou, tout va bien, quoi.
Non, je pense qu'elle va revenir, elle va être handicapée d'une certaine façon. Enfin, elle a quand même pris méga cher. Mais je trouve que c'est pareil, c'est un personnage très important. Mais oui, son arc était peut-être fini, peut-être qu'il fallait... tuer quelqu'un. J'aime Stranger Things, mais cette seconde partie m'a déçue. J'avais l'impression que les créateurs ne nous prenaient vraiment pas au sérieux. Ils ont créé un super univers, mais quand celui-ci devient plus sombre et plus violent, ils ne veulent pas en assumer les conséquences. Tuer un personnage, ça ne veut pas dire l'abandonner ou ne pas l'aimer. Ça peut être lui donner une fin à la hauteur de son héroïsme. Et en fait, ils n'ont pas voulu faire ça. C'est sûr que j'aurais été effondrée que Steve meure, par exemple. Mais je crois que j'aurais compris, ça aurait eu du sens à ce moment-là. Il aurait pu se sacrifier pour sauver Robin et Nancy, qui sont d'une certaine façon les deux femmes de sa vie, sa meilleure amie et son grand amour. Maintenant, bah voilà, c'est la fin du monde et va falloir gagner. Mais actuellement, je suis pas vraiment sûre qu'ils en soient capables de gagner. Et c'est tout, j'ai rien d'autre à te dire, je suis énervée. Et vraiment, j'aurais été dévastée que Steve meure, mais j'aurais vraiment compris.
Ça aurait été bien. Mais j'aurais été très triste aussi.
J'aurais été super triste, mais en fait, je pense que ma tristesse aurait été à la hauteur de ce que ça aurait apporté à la série. Je pense que Robin et Nancy auraient été tellement énervées et tellement remontées qu'elles auraient pu apporter quelque chose de plus encore à la série, tu vois.
Après, peut-être que pour la saison d'après, ils avaient besoin qu'il soit vivant parce que l'histoire, elle était faite.
Ouais, mais en plus, je trouve qu'au niveau héroïsme, tu vois, Steve est un personnage héroïque. C'est ce qu'on nous montre depuis le début. Au départ, c'est un connard. Et en fait, plus ça va, plus ça avance dans la série, plus il devient héroïque. Il se lie d'amitié avec Dustin, ils sont meilleurs potes. Enfin, il les sauve souvent. Et en fait, c'est un personnage méga héroïque. Et je pense que lui, il aurait très bien pu se sacrifier pour Robin et pour Nancy sans aucun problème. Ça aurait été en adéquation avec sa personnalité. Parce qu'au final, c'est un espèce de héros raté, en fait. C'est un peu un
loser héros magnifique.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça.
C'est un vrai type de personnage.
Bah voilà, c'est lui. Mais je suis un peu énervée parce que je trouve vraiment ça dommage.
On voit bien, oui. Non mais c'était pas une plaisanterie, on voit bien que t'es énervé.
T'es un peu vindicative et ça fait un peu peur, mais on peut quand même essayer de continuer.
Damien, est-ce que t'as des choses à dire ?
Non, moi, ça m'a pas marqué de fou, c'était agréable à regarder.
Mais... Tu t'en rappelais même plus que c'était ce mois-ci ?
Assez peu finalement. Mais je suis pas aussi attaché que vous à cette série, j'ai l'impression.
Ok. Bah vous voyez qu'on n'est pas hyper d'accord sur Stranger Things. On va enchaîner avec une série que Damien a regardée.
Alone.
Ça s'appelle Superstore. Il y a la saison 1 et plein d'autres. Je ne sais plus exactement lesquels.
Il n'y a qu'un épisode.
Moi, j'ai vu la une. Non, il y en a beaucoup plus. Il y en a 11. Ça dure 21 minutes à peu près par épisode. Ça a commencé à sortir le 30 novembre 2015. Et je l'ai déjà dit, mais c'est sur Netflix. C'est une série qui a été créée par Justin Spitzer. Peut-être un rapport avec les petits chiens. Alors, les drôles de mésaventures des employés d'un grand magasin. Des débutants aux yeux qui brillent, aux vétérans qui ont déjà tout vécu, en passant par les employés d'été paumés et les managers déterminés, ils affrontent, en famille, les soucis du quotidien inhérents à la gestion d'une grande surface.
Alors, remplacer grande surface par, je ne sais pas, commissariat, c'est Brooklyn Nine-Nine. Remplacer grande surface par bureau,
oui, bon, c'est The Office. Comme,
remplacer
un appartement, c'est Friends.
Ah, j'aurais pas dit Friends, j'aurais dit remplacer par une mairie, et c'est Park and Rec.
Oui, c'est vrai, mais...
Le résumé est très
marrant. À quand la série sur une librairie? Moi, je vais voir.
Je suis sûr que ça existe.
Bah, you, c'est un peu Black Books. You.
Oui, il y a Black Books.
C'est You.
Non, il y a Black Books, qui est quand même plus représentatif. Quand même.
Black mais Books, you. C'est plus le The Office UK.
Ouais.
Bon, du coup, pour revenir à Superstore, oui, et bah du coup, c'est un sous tout ça. Il y a plein d'archétypes de persos qu'on a déjà vu plein de fois. Il y a quand même des choses un peu nouvelles. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est souvent le cas aussi, mais il y a pas mal de diversité en termes de personnages. Moi, mon perso préféré, c'est Garrett, et il est en fauteuil roulant. Et il est trop drôle, c'est le plus drôle, je trouve, de tous. Il y a deux persos principaux avec une petite amourette, et c'est quand même ça un peu la diff, c'est qu'ils ont axé pas mal sur une espèce d'histoire amoureuse qui est pas intéressante. En fait, d'habitude, dans les autres séries, les histoires amoureuses, c'est un peu les trucs à côté. Et là, c'est devenu le truc un peu principal et c'est dommage.
The Office, ça prend de la place quand même.
Assez peu, hein.
Quoi ?
Bah, pas tant que ça.
Moi, je trouve que ça
c'est un truc en fil rouge un peu tout le temps, mais...
Je trouve que dans les premières saisons, l'histoire entre Jim et Pam, elle est... Enfin, Jim, il est... C'est son seul
il
arc.
Il fait pas grand-chose, quoi. Ah, tu trouves que c'est son seul arc ? Mais non, il fait plein de vannes autres.
Oui, il fait des blagues, mais son seul arc, son évolution entre le début de la saison et la fin, c'est par rapport
mais
à Pam.
Ouais.
Et Pam aussi.
Bah, c'est le seul arc, on va dire, en termes de romance, mais ils font d'autres choses, quand même.
Mais bon, enfin, on voulait pas parler de The Office.
Oui. Et du coup, dans Superstore, en plus, il y a assez peu d'arcs intéressants. L'amourette est basique. Du coup, j'étais un peu déçu. C'est une série rigolote pour manger, voilà. Si jamais vous avez du temps à passer et que vous voulez regarder un truc...
Bah attends, il nous reste 7 saisons de Brooklyn Nine-Nine.
Qui est vraiment beaucoup, beaucoup
et
mieux.
Et on vous parlera
pour
de Brooklyn
coup,
Nine-Nine.
C'est pas une saison pour manger. C'est pas une série pour manger,
si
Brooklyn
on mange.
Nine-Nine. Non, il faut être concentré. C'est drôle, il y a beaucoup de détails. Superstore, c'est pas le cas. Donc oui, l'intrigue tourne en rond. C'est une bonne série pour Miam. J'ai déjà tout dit, en fait.
Donc on a bien fait, parce que vraiment... On hésitait entre ça et Brooklyn Nine-Nine
non.
quand on avait fini.
Moi, j'hésitais pas, j'aurais pas regardé ce truc-là. Ça me dit, j'ai pas du tout envie de regarder.
Bah, encore moins maintenant.
Non. Ah, la suite, s'il vous plaît.
La suite.
On va parler de Tokyo Revengers. La saison 1 de 24 épisodes de 24 minutes sortie le 11 avril 2022 sur Crunchyroll.
Oh, il y a plein de chiffres qui se répètent et tout.
C'est incroyable. Takemichi Anagaki n'a pas vraiment réussi sa vie. Il fait des petits boulots sans intérêt et lorsqu'il apprend que la seule petite amie qu'il ait jamais eue au collège, Hinata Tachibana, a été tuée par l'impitoyable gang Tokyo Manjikai, il est anéanti. Le lendemain, toujours sous le choc, il est poussé sur les rails.
Bah, sur les rails et sur les rails. Métro.
Mais c'est pas sur les rails de la gare, je trouve ça trop bizarre d'ailleurs ça. Sur les rails d'un train.
Le métro.
C'est un métro.
C'est un métro. C'est un train.
Bah non, c'est un métro, c'est à Tokyo en plein centre.
Il n'y a pas vraiment de rails.
Bon.
Il y a des rails au Japon.
Sur les rails d'un train ou d'un métro, d'un mouvement de foule.
Oui.
Mais Takemichi ne meurt pas et quand il se réveille, il est revenu 12 ans en arrière. Il va ainsi retrouver ses merveilleuses années, mais aussi tenter de sauver celle qu'il aime et prendra sa revanche sur la vie.
Ah ouais.
Ah ouais. C'est ce qu'ils disent, le résumé.
Ah oui, c'est pas
toi
qui l'as écrit.
Non, bah non, c'est beaucoup trop romancé pour moi. Bon, si on faisait un lien avec Stranger Things, je dirais que... Dans cet animé, ils assument le
c'est
fait
audacieux.
De faire mal à leurs spectateurs. Et même si parfois c'est horrible, bah au final, c'est pour le mieux.
C'est un peu plus facile quand tu peux voyager dans le temps pour faire revenir tous les gens que tu veux. Mais oui, admettons.
Franchement, tu trouves ? Parce que moi, je trouve que ces voyages dans le temps, ça marche pas terrible pour le moment. Ça fait juste pleurer.
Il a fait gagner 12 heures de vie à quelqu'un.
Oh, super. Applause.
Il a sauvé une personne aussi.
Oui, une. Et par contre, je crois qu'il en a tué une autre.
On a regardé un truc qui disait « Qui sauve une personne, sauve le monde ». Je sais plus du tout où c'était.
Ça, c'est Eros, non ?
Non, vraiment, on a regardé un truc hier.
Sauver la cheerleader, sauve le monde.
Non, qui disait « Si on sauve une personne, on sauve le monde ». C'est peut-être dans Sidiste, hein, vraiment.
Peut-être.
C'est Jésus. C'est Jésus qui a dit « Sauver une personne, vous sauverez le monde ».
Qu'est-ce que je veux dire ? Takemichi... Oui. Takemichi est un personnage intéressant car on se rend vite compte qu'il a rien à faire dans un gang. C'est marrant. Il aime pas vraiment se battre, il est peureux et super sensible, il a pas une carrière très imposante, mais alors il a une âme de héros et n'abandonne jamais, ce qui lui donne trop la classe.
Mais il y en a aucun qui a une carrière imposante, ils sont tous toucus à part un mec.
Mais non.
Ah si.
Non, si tu regardes dans l'anime, il y en a plusieurs qui ont des carrures imposantes quand même. C'est pas parce que Mikey, il est trop petit et pas
échétif
que...
C'est quoi une carrure imposante ?
Bah il est genre être grand. Et costaud.
Pour un lycéen.
Pour un lycéen. Non, c'est un collégien. Alors ça, c'est trop chelou.
Vraiment, il y en a trois quoi au collège qui sont imposants.
Bah là, il y en a plein.
D'accord, mais...
et du coup, oui, je disais qu'il me faisait un peu penser à Deku dans My Hero Academia, sauf que Deku devient super fort, alors que pour le moment, Takemichi, il est pas super fort.
Il prend son temps.
Super pouvoir dans My Hero Academia.
Oui, c'est ça. Peut-être que ça aide un peu Midoriya, les super pouvoirs. Mmh. C'est vrai. Puis si vous aimez les persos super classe et badass, vous aurez le choix. Dans Tokyo Revenger, il y a Mikey, Draken, Mitsuya ou Shifuyu qui sont vraiment trop trop cool. Ce que je trouve incroyable dans cet animé, c'est clairement le scénario. C'est super bien écrit, c'est plein de rebondissements et de suspense. Le mangaka étant un ancien délinquant, il se sert de ses expériences personnelles et de sa connaissance du milieu dans les années 2000 pour montrer l'évolution des gangs au Japon. Ça en fait un portrait plutôt réaliste et clairement flippant. Mais je crois que c'est ce réalisme qui donne des frissons quand on regarde cet animé. J'ai pas pu attendre l'animé pour découvrir la suite de l'histoire, alors j'ai repris le manga. Si vous voulez lire la suite, il va falloir acheter le tome 9, car l'animé se termine à la moitié de celui-ci. Vraiment, la moitié.
Ce qui est assez surprenant vu la fin. Mais...
Ouais, j'ai lu la deuxième moitié du tome 9 aujourd'hui du coup.
Cool pour toi.
Ouais, cool. À toi, qu'est-ce que t'as à dire ? J'ai vu qu'il y avait des trucs négatifs, alors va falloir...
Oui, il y en a un petit peu.
Pas trop.
Mais, en fait, moi, j'étais pas très sûr de vouloir lancer Tokyo Revengers, parce que je venais de finir Vinland Saga, que j'avais trouvé vraiment très très bien, et je sais pas si vous avez ça, mais des fois, j'ai du mal à me dire que je vais regarder deux trucs dont je sais qu'ils sont sans doute très bien de suite.
Oui.
J'ai un peu peur que le deuxième
soit
un peu éclipsé par le premier. Enfin bref, et du coup je l'ai quand même lancé, je sais pas trop pourquoi.
Mais c'est parce que je te dis.
Ouais, c'est possible. Et en fait c'était très très bien, l'histoire elle est beaucoup plus enfantine que Vinland Saga.
C'est un shonen.
Oui voilà, c'est un...
Oui. C'est, et c'est quand même un shonen violent, je trouve, pour un shonen.
Oui.
j'ai pas de...
Il y a plein de sang.
Ah bah,
il y a des armes à feu, des accidents,
oui,
des bastons.
Vrai. Oui. Oui.
Trop d'émotions.
Du coup, oui, c'est ce que j'ai mis. Hein. C'est un jeune, c'est pas mal. Oh, sinon, on fait un truc. Moi, je fais le début des phrases et tu fais les réactions. Moi, j'ai fait aussi un parallèle avec My Hero Academia, mais c'était pour l'animation. Je trouve qu'elle est à peu près dans le même style, très propre et très net.
C'est pas faux.
Et je trouve qu'il y a quand même, malgré tout, quelques défauts. Il y a tout un truc sur le voyage dans le temps et je trouve que c'est pas super bien traité. Dans le sens où on nous dit clairement que son corps, il se passe plus rien pour lui pendant qu'il voyage dans le temps et ils en font rien. Je sais pas, je trouve que c'est un peu dommage. Il pourrait se passer des choses pendant qu'il voyage dans le temps et on... en fait, au moment où il est dans le passé, on voit rien de ce qui se passe dans le futur.
Mais c'est parce qu'en fait, quand il est dans le passé, et bah, lui, son corps s'arrête. Et en fait, ça change rien. C'est que,
il pourrait lui arriver des trucs.
C'est que bah, quand il revient que là, ça se modifie.
Il pourrait évoluer en fonction de ce qu'il fait. Il pourrait nous faire quelque
non,
chose.
Non, c'est que quand il revient que ça se modifie.
Non, mais ce que Damien dit, c'est très vrai.
Si, si,
par exemple,
il, si, ils le disent parce que quand il est dans. Quand il est avec Naoto, je sais plus son prénom. Son frère, Aina, le frère d'Ina. Et bah, il garde son corps, lui, et du coup, quand il se réveille...
Mais ça, je suis d'accord,
parce que
le fait qu'il garde son corps.
Oui, mais sinon, quand il se réveillerait, il serait au même endroit. Ce qui n'est pas le cas. Quand il se réveille, il n'est jamais au même endroit.
Bah, la première fois, il est au même endroit.
Il se
réveille dans sa chambre avec lui et lui dit « Ah, heureusement que tu as gardé mon corps. » Et après, non, il se réveille ailleurs. Et ça
oui, mais il se réveille parce qu'il a changé quelque chose.
Oui.
Bah, quand,
du
en fait,
coup, moi, je trouve que
quand
c'est
il revient, du coup, après avoir changé quelque chose, et bah, en fait, le temps... La ligne temporelle, en gros, elle se modifie à ce moment-là et du coup, bah, il reprend la place à laquelle il était par rapport aux événements.
C'est juste que comme c'est très peu expliqué...
Est-ce que son monde évolue quand il revient?
Quand il revient, oui, le monde évolue, ouais.
Oui, le monde évolue.
Si il a fait des actions qui changent quelque chose. Il n'y a pas de paradoxe temporel. Il n'y a aucun paradoxe.
Bah, c'est un peu... De ce que vous racontez, ça a l'air d'être un peu le même fonctionnement que Retour vers le
futur.
Mais sauf qu'il arrive dans son corps à lui.
Oui, sauf qu'il revient dans son corps.
Ouais, oui. Ouais, je comprends.
Après, pourquoi du comment, ça, on sait pas.
Bah après, là, pour le coup, c'est de la suspension consentie d'incrédulité. Si on dit ça marche comme ça, et bah,
on
si
nous dit
qu'il
a un
pas,
pouvoir, son pouvoir, il se déclenche quand il fait tel truc.
Et voilà.
Et voilà, moi, c'était mon truc un petit peu négatif. Je trouve quand même que c'est un peu dommage. Et du coup, ça parle beaucoup, beaucoup du passé, pour l'instant. Et les passages dans le temps présent sont beaucoup plus courts. Et je trouve aussi que c'est un peu dommage. À part pour nous ramener, nous dire « Ah, bah, cette fois-ci, c'est lui qui est mort. Bah, » Je sais pas, peut-être qu'il pourrait en faire quelque chose de plus, parce qu'après tout, il y a 12 ans d'intervalle. Donc,
Ouais, mais par contre, s'il reste trop longtemps dans le futur, enfin, s'il reste trop longtemps dans le présent, il peut pas retourner dans le passé pour changer les choses. Vu que les jours, en fait, sont liés.
Il change des choses différentes, mais... Oui, mais en fait, c'est le rythme de l'animé qui fait ça. C'est qu'ils disent « Ah, à telle date, il y a eu telle chose, mais... » Il pourrait laisser plus de choses dans le présent et dire... Enfin là, vraiment, ça s'enchaîne à un rythme...
Ouais, mais en fait, en plus, ils vont pas pouvoir faire autrement avec la suite, donc ils sont bloqués. C'est Keblo,
ok. Mm. Et voilà, sinon, j'ai pas grand-chose à dire de plus. J'ai vraiment bien aimé, les persos sont trop classe et c'est clairement le point fort de la série. Genre, l'histoire est bien, mais elle est pas non plus foudroyante, quoi.
Le seul truc que je me suis dit, c'est... La question que je me suis posée, c'est pourquoi il reste pas juste dans le passé? Pourquoi il refait pas juste sa vie en entier, tu vois.
Ah oui, d'autant que ils nous disent clairement que quand lui, il n'est pas dans son corps de jeune, son jeune, lui, prend pas que des bonnes décisions, quoi.
Oui, c'est ça. Donc en gros, moi, c'était ça mon interrogation. Ce que je me disais à certains moments, c'est, bah, au pire, il retourne dans le passé, il se rend compte qu'il s'est séparé d'Ina, tu vois, quand ils étaient un peu plus vieux. Mmh. Je sais pas trop pourquoi et tout ça. Et je me dis, bah, pourquoi tu retournes pas juste dans le passé? Et en fait, bah, tu fais les choses bien jusqu'au bout. Et en fait, tu vis ta vie tu revis une fois ta vie. Mais au moins, ça va bien
Est-ce
se dérouler
que
jusqu'à maintenant.
Boucler, parce que du coup, ça veut dire qu'au moment où il revient, au moment où il commence à être dans le passé, il va rester dans le passé. Et du coup, son corps va rien faire pendant 12 ans.
Je sais pas.
Très bizarre.
Franchement, on sait.
Emilia est fort
pas.
En paradoxe temporel. On pourrait lui poser la question, mais peut-être hors podcast.
Mais j'ai dit à Emilia qu'il a existé un film live action et il a dit qu'il était intéressé pour le voir.
Un film live action de Tokyo Revengers.
Ouais.
Je sais pas si.
Si c'est pas Netflix qui le fait, ça peut pas être pire.
Non, c'est un studio de c'est un studio japonais. Voilà.
Ok.
Eh ben, je vous laisse enchaîner parce que c'est vous qui
particulièrement Mathilde parce que moi j'ai pas.
Moi, je vais vous parler de je vais vous parler de Control Z, la saison 2 de 8 épisodes de 38 minutes chacun, qui est sorti le 4 août 2021. Ah bon?
Je viens de regarder.
Ah, la saison 2 est sortie le 4 août 2021 ?
Ouais.
Ok.
Est-ce que ça a un rapport avec le fait d'annuler des choses ?
Oui. Quand un hacker se met à distiller les secrets les plus intimes des élèves, Sophia, une jeune fille solitaire mais observatrice, tente de découvrir son identité. Ça, c'était le résumé de la saison 1. Et du coup, on revient avec la saison 2. Mais j'avais beaucoup aimé la saison 1. Je trouvais qu'elle parlait très bien du harcèlement scolaire et des dérives de celui-ci, tout en intégrant du suspense grâce au personnage du hacker. Donc le but de la saison 1 était de découvrir qui se cachait derrière le hacker, qui diffusait les secrets de ses camarades. Malheureusement, la saison 1, on apprenait qui était le hacker et tout ça. Malheureusement, je trouve que là, le charme de la saison 1 s'est dissipé. Il y a encore beaucoup de rebondissements, mais j'ai trouvé que l'intrigue était déjà vue, vu qu'elle reprend un peu celle de la saison 1. Après avoir cherché le hacker, on se met à chercher le vengeur, qui est une autre personne qui essaie de se venger de la mort de Louis, qui est décédé dans la saison 1, suite à s'être fait tabasser à mort par un de ses élèves. D'ailleurs, la scène de bagarre du coup qui avait eu lieu entre ces deux personnages était vraiment incroyable. Moi j'avais pleuré. Enfin, c'était vraiment horrible, mais très très bien fait en fait, très bien filmé et tout ça. C'était vraiment ouf. Et donc voilà, on a le vengeur. On essaie de savoir qui c'est. On essaie de savoir qui c'est. C'est ça en fait le but de la saison. Donc c'est un peu du déjà vu par rapport à la saison 1. Par contre, la saison s'achève sur un drame qui promet une nouvelle intrigue pour la saison 3, qui sera également la dernière. J'ai commencé la saison 3, donc je vous en parlerai mois prochain et ça sera la dernière. J'espère que ça va s'arranger un petit peu. Pour l'instant, c'est mitigé. Donc à voir. J'ai pas grand chose à en dire de plus. Je suis un peu déçue, à vrai dire, parce que la saison 1 m'avait vraiment marquée. Et ouais, ça arrive des fois de bonnes saisons. C'est pas facile de tenir le niveau.
Surtout si c'était très très bien.
Ouais, c'était vraiment bien.
Vous allez enchaîner avec une autre série sur Netflix.
Oui, c'est The Umbrella Academy, dont la saison 3 est sortie le 31 juillet 2020. Ah bon?
C'est une nouveauté,
2022.
2022, c'est une nouveauté.
Même pas le 31 juillet, parce qu'on n'est même pas passé.
Non, c'était le 27 juillet, je pense.
Bah non, parce que c'était
demain, juin, probable. Ça devait être le 27 juin.
En tout cas, il y avait 10 épisodes de 51 minutes, ça en est à peu près sûr. Le résumé.
C'est moi qui l'ai fait.
Non, c'est moi.
Quoi?
C'est moi qui le fais.
Ah, non, mais c'est moi qui l'ai écrit, non?
Ah bah félicitations, est-ce que je peux le dire?
Le 22 juin, c'est le 22
oui.
juin.
Vas-y.
Après avoir évité une nouvelle guerre, la Umbrella Academy retourne à son époque. Mais surprise, dans cette ligne temporaire, leur père ne les a pas adoptés et a créé à la place la Sparrow Academy. Ce paradoxe conduira-t-il encore à une nouvelle fin du monde?
C'est moi qui l'ai écrit.
Bah il est bien.
Ah, j'ai trouvé ça trop bien. Bon, alors j'ai beaucoup plus aimé cette saison 2. Non, cette saison que la saison 2, c'était ça la bonne phrase. Rien que le premier épisode et la scène de danse inventée par Diego, franchement, ça m'a mis bien, j'étais trop bien. J'avais l'impression de retrouver le début de l'Umbrella Academy quand ils dansaient tous dans la maison, là, j'avais adoré cette scène.
Cette scène était trop cool.
Bah là, elle était trop cool aussi. Hein.
Ouais, c'est kiff, c'est vraiment le retour des bonnes choses. Diego et Lila sont...
Le retour des bonnes choses, c'est une pub pour Nutella.
Raté.
C'est vrai.
Mais ça marche bien.
C'est vrai.
Diego et Lila... Arrêtez. J'ai parlé de Diego et Lila.
De confinement. Diego et Lila, pardon.
Diego et Lila sont d'ailleurs en train de devenir mes persos préférés. Ils sont complètement bargés. Et pourtant, si attachants.
Parce que tous les autres sont... Ouais.
Ouais.
Moins intéressant.
J'ai beaucoup aimé la façon dont a été fait le coming out de Victor dans cette saison. Je trouve que c'était la meilleure façon de faire, aussi bien pour son personnage que pour l'acteur. C'était juste parfait. Sinon, cette saison joue beaucoup sur l'absurde et j'ai vraiment trop kiffé. Il y a par exemple les scènes où Klaus court après une balle pour se faire écraser par des voitures ou d'autres choses. L'intrigue autour du fils de Lila et Diego, juste incroyable, merci. Vraiment, j'ai hâte de découvrir la suite. Moi, ça m'a... j'ai vraiment trop aimé cette saison.
Il y aura une suite.
Oui, bien sûr.
Je demande,
parce que
rien,
ça s'est terminé sur un cliffhanger.
C'est encore la fin.
Non, ils sont dans une nouvelle ligne temporelle. Ils viennent d'arriver à un nouvel endroit. Où, comment, pourquoi. Mais bien évidemment, il y aura sûrement une histoire de fin du monde.
Ils ont résolu la fin du monde. C'est bon, ça c'est une affaire bouclée.
Ouais, on disait ça pour les trois autres saisons aussi. Trois saisons, trois fins du monde.
C'est pas Victor cette fois encore.
Non.
C'était déjà pas Victor là.
Dans la saison 2, c'était à moitié Victor.
À moitié. Dans la 1, c'était...
Dans la 1, c'était Victor. Dans la saison 2, c'était à moitié Victor. Et dans la 3, là, non, c'est juste un paradoxe temporel. C'est qu'ils sont arrivés dans un endroit où ils n'existaient pas, donc forcément, ça fait un paradoxe.
Paradoxe. Ok.
T'as rien à dire, toi ?
Ah, bah, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter, parce que je suis assez d'accord sur le fait que le couple de Diego et Lila soit très très bien. C'est les plus rigolos de toute la saison. Alors qu'avant, bon, Diego, c'était un peu un gros bourrin qui lance des couteaux. C'était quand
c'est
même
vraiment...
La saison 1, il était assez insupportable.
Ouais. Mais voilà, moi... il a vraiment un virement de personnage assez stylé.
Dans
en
la
mode
saison...
père de famille et tout, c'est assez rigolo.
Dans la saison 1, je croyais que son super pouvoir, c'était de lancer des couteaux.
Ah,
en fait, non.
Bah, parce que c'est pas un pouvoir. Hein.
Non.
C'est-à-dire que...
Non, en fait, il contrôle le métal.
Oui, mais pourquoi il n'y a que des petits couteaux?
Parce qu'en fait, il n'a pas besoin d'avoir des couteaux de fou.
Non, mais
il peut
Magneto,
leur faire des coupoles.
Il contrôle le métal, en fait.
Mais on voit jamais Magneto lancer des petits couteaux.
Il
donc
pourrait faire autre chose, vu qu'il contrôle le métal.
Ouais, mais c'est quand même la Umbrella Academy,
après...
tu vois. C'est un peu une école de
oui,
bras.
C'est ça.
C'est, il joue vachement avec ça.
C'est des bracasses.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Et ouais, si, les scènes de combat, elles sont trop bien, par contre.
Oui.
Dans la saison 2, elles étaient... Enfin, c'était un petit peu ce qui sauvait la saison 2, je trouvais. Et là, vraiment... Bah alors là, pour le coup, il n'y a pas que ça qui est bien.
Non.
Mais
c'est cool, tout
partie.
Est cool.
Et oui, la scène de danse, elle est incroyable.
Ok. Mathilde, on te donne la parole pour une autre série de
c'est
Netflix.
C'est Love and Anarchy. C'est la saison 2 de 8 épisodes de 32 minutes, sortie le 16 juin 2022 sur Netflix. Pour rappel, une consultante mariée et un jeune informaticien se séduisent au fil d'un jeu de défis qui remet en cause les normes sociétales et les amène à réévaluer toute leur vie. Ça, c'était le résumé de la saison 1. Pour faire court, en gros, les deux protagonistes avaient fini ensemble, donc la consultante et l'informaticien. J'avais adoré la saison 1, c'était frais, amusant, inédit en plus, et en plus ça passait dans, en plus ça se passait dans le monde de l'édition, donc moi ça, je trouvais ça trop marrant. Cette saison 2 est un peu plus sombre qu'RR, elle parle principalement du deuil, de l'acceptation de celui-ci et du fait de réussir à être soi-même quand la société nous éloigne de ce en croit, en quoi on croit. Mmh. Et au final, ça se finit bien pour nos deux protagonistes, mais c'est pas facile, c'est vraiment une série un peu plus sombre en fait que la saison 1 qui était vraiment plus amusante. Donc j'étais un petit peu déçue, mais vraiment psychologiquement, c'est quand même très intéressant.
C'est fini ?
Je sais pas.
D'accord. Parce que comme tu dis que ça se finit bien, mais c'est dur.
Après, je crois que Love and Anarchy, c'est le titre d'un bouquin aussi, donc faudrait peut-être que j'essaie de lire le livre. Ça pourrait... Peut-être que j'aimerais bien. J'ai pas grand-chose à en dire.
D'accord.
De plus.
Bon, bah, on va enchaîner avec la dernière série.
Là, j'ai des trucs à en dire.
Ah !
C'est Love Victor, saison 3, 8 épisodes de 28 minutes. C'est sorti le 15 juin 2022 sur Disney+. La série est terminée. Victor aime Benji, mais il est également très proche de Raïm, qui lui a avoué ses sentiments. Qui sera l'élu de son cœur ?
Ah bah, on se demande.
Oh.
Comme Cupidon frappera-t-il de sa flèche ?
C'est ça. Comme à chaque fin de saison, Victor se retrouve face à une porte close et cette saison débute avec l'ouverture de la porte qui se cache derrière. C'est le final.
Ah, c'est pas une... C'est pas une image ?
Non.
Parce que ouais, vraiment, je voyais une métaphore un peu bizarre.
Non, non, le mec est vraiment devant une porte et on attend qu'il l'ouvre. C'est okay. La réalité.
Mais elle a qui cette porte ?
Ah bah voilà. C'est le final de cette série et c'est pas vraiment une réussite. Je crois que c'est pas plus mal que ça se termine car ça s'essouffle. Et qu'on voit que les gens savaient plus trop quoi raconter. Plus clairement, c'est pas à la hauteur de Airstopper. Déso, pas déso.
Bah,
il faut toujours en mettre horrible. Un petit coup.
Non, mais je crois si la comparaison est à peu près légitime parce que les séries sont sorties presque en même temps.
Et puis Disney Plus a vraiment sorti Love Victor, non, Love Victor sur Disney Plus pour dire c'est notre Heartstopper.
Ouais, mais Love Victor, ça a quand même 2 ans de plus que Heartstopper.
Oui, mais je veux dire dans la manière dont Disney a vendu la saison 3 en disant c'est plus tard, c'est Disney Plus.
Mais
etc.,
après,
etc.
je sais pas si. En gros, quand ils ont créé Love Victor, ils connaissaient déjà Heartstopper, tu vois. Enfin, c'est deux séries qui sont similaires, mais Love Victor est sorti quand même avant. Et du coup, oui, qui se cache derrière cette porte? Vous voulez savoir? Je peux vous le dire si vous voulez.
Allez.
Vous spoiler.
Ouais. Vous voulez? Non.
Bah, c'est Raïm.
Non, c'est Benji. Oh.
Benji, c'est pas le mec du début?
Si. On reste sur le premier amour.
On a perdu 3 années, quoi.
Mais c'est bon. C'est quoi ça? Non. Mais cette saison débutait avec quelques trucs sympas. On commence par là. L'introduction d'un personnage bisexuel dans la série. Lake qui se met à sortir avec des filles. C'était plutôt intéressant, bien amené, c'est bien fait. Également le fait qu'on prenne au sérieux les problèmes d'alcool chez les jeunes, parce qu'au final Benji va en cure de désintoxication, donc c'est pris au sérieux, je trouve ça plutôt aussi bien fait. Mais à part ça, ça part clairement en cacahuète. Hein. Vraiment, on était... C'était pas... Non. Moi j'étais un peu choquée. Déjà, la séparation entre Lake et Félix, qui étaient ensemble dans la saison 2, c'est juste impossible que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Genre, les gars, ils se sont séparés, ils se sont pas parlé de tout l'été, les deux, ils se sont tous les deux remis avec d'autres personnes, ils se retrouvent au lycée, et ils se croisent, et ils sont en mode « Ah bah moi je sors avec machin maintenant, ah bah moi je sors avec machin. »
Bah ouais, ils sont passés
autre
chose.
Ah ok. Genre... Et genre après, non mais
vous
attends.
Vous devriez être malheureux.
Non. Non mais après 24 heures plus tard, ils ont une super conversation tous les deux où ils se racontent des trucs. Enfin, c'est trop bizarre. C'est vraiment.
Raconter comme ça, il y a pas grand chose.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui se séparent au lycée?
Bah ouais.
Bah ça se passe pas comme ça.
Bah des fois peut-être.
Non. Non. On prend non.
Je trouve que t'as un avis un
pigeon.
Peu définitif.
Pigeons. Mais... Ils prennent les ados pour des pigeons. Mais c'est pas grave. S'ils veulent faire ça. Sinon, les parents de Victor sont super malsains. La pire parent du monde. Niveau ça va pas du tout. Ils rencontrent d'autres parents à l'église et il s'avère que ces parents ont un enfant gay.
Pourquoi
comme
j'ai vu cette scène? Vous m'avez montré.
Et qu'est-ce qu'ils font du coup?
C'est possible.
Et bah.
Mais c'était bien, elle était drôle, cette
scène. Ils font un grand repas pour caser leurs deux garçons ensemble.
Alors moi, c'est la seule chose que j'ai vue de toute cette série et de toute cette saison. Cette scène m'a fait rire.
What the fuck?
Je sais pas pourquoi j'ai vu aussi, mais... La mère tient un discours vraiment chelou en mode... Eh ben,
votre fils est gay, moi aussi,
Michel
on les met ensemble.
Michel et Lucien ont un enfant, il est gay. Donc on va les inviter. Et Victor, il dit, bah, foutez de ma gueule, c'est pas parce qu'il y a un garçon gay que forcément je vais tomber amoureux. Et en plus, il s'avère qu'il tombe amoureux.
Ah oui.
Non, mais c'est malsain de ouf. En plus, il les rencontre à l'église. Enfin, c'est super bizarre. Il les invite. Ah bon, votre fils est gay, le mien aussi. Ah bah attendez, on va se faire un repas. Ils vont se rencontrer. Là. Non, mais stop. Et d'où les parents ont besoin de caser leurs enfants comme ça?
Bah, il y a plein de parents qui font ça. Hein.
Ah, c'est horrible. Bah, il est au lycée.
Bah oui.
C'est pas comme s'il avait 30 ans.
Il n'y avait pas un bail que ses parents avaient du mal à accepter sa sexualité.
Si.
Et que du coup, là, ça fait un peu. C'est bon, maintenant on a compris, on est avec toi et donc du coup, bah les parents font beaucoup trop.
Dans une version qu'ils peuvent accepter en plus.
Ouais, mais c'est trop. Ouais. Moi, je trouve ça, je sais pas.
Ouais, et puis c'est un homosexuel qui va à l'église, donc il est quand même un peu
croyant.
Oui.
Non, mais j'allais dire, il est respectable. C'était peut-être ça que les parents se disaient.
Bah justement pas du tout, parce qu'en fait ils se mettent juste à coucher ensemble. Ils ont pas de relation. Ils couchent juste ensemble. C'est son sex friend.
Oui, non, mais c'était un A pour les parents devaient être déçus.
Ben, ses parents, ils n'étaient pas au courant, mais ça fait vraiment, c'est encore plus bizarre parce que ça fait vraiment les parents ont trouvé un gigolo à leur fils. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre.
Un gigolo qui va à l'église.
Non, mais en vrai, c'est malsain de ouf. Sinon, autre truc de les parents, ça va pas du tout. Il y a la sœur de Victor qui sort avec Félix, du coup. Et qui prend la pilule. Cette jeune fille est très mature. Elle se dit, tiens, je sors avec ce type depuis un moment. Peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, on voudrait coucher ensemble. Je vais commencer à prendre la pilule. Comme ça, je suis protégée au cas où il se passe quelque chose. Ses parents qui trouvent la pilule dans sa chambre, pète un câble.
Mais pourquoi j'ai vu ça aussi?
Pète un Yoda. Ils sont énervés de ouf. Tu nous as menti. Tu nous as dit que tu couchais pas avec lui. Mais couchais pas du tout avec lui. Sauf que peut-être que ils ont raté un épisode à quelque chose. Peut-être qu'on leur a pas expliqué.
Après, ça se passe aux États-Unis.
Si elle couche avec Félix.
C'est des arriérés.
Et qu'elle prend pas la pilule depuis le début du mois. Ça la protège pas, la pilule. Enfin, c'est pas un truc magique, tu vois. Ça se prend depuis plusieurs longtemps.
C'est une famille de.
C'est une famille catho. Peut-être que la contraception, c'est vraiment pas bien.
Non, mais faut arrêter. Tu peux pas. Moi, je pense que tu peux pas montrer ça à des jeunes. Bah, enfin, je trouve c'est vraiment
aussi que
pas
c'est
bien.
C'est un super mauvais message. Mais
oui, voilà. Ça, c'est clair aussi.
Non, mais moi, ça m'a. J'étais. Ça va pas. Ça va pas du tout. Pas
ça
du
faisait
tout.
Un peu. Il nous faut du drama, donc on trouve un prétexte de merde.
Oui, mais surtout, ça fait vraiment genre les filles, prenez votre pilule en cachette parce que si vos parents ils la trouvent, vous allez passer un sale quart d'heure. Quoi? Non. C'est si tes parents ils trouvent ta pilule, ils font ah bah c'est bien, tu te protèges, tu penses, enfin t'es mature, t'es réfléchi.
Tu le montres sans doute pas dans la série parce que du coup ça a moins d'intérêt.
Ouais, moi je trouve ça plus logique.
Oui.
Voilà.
Mais ça fait pas une scène.
Enfin bon, voilà, c'était vraiment n'importe quoi cette série. Clairement, c'était pas un final incroyable. Heureusement, la saison se finit sur une note positive avec Victor qui fait un discours parce qu'il reçoit le prix du courage.
C'est beau.
Alors.
Mais qui décerne ça?
Ah bah en fait, il a le prix du courage parce que il fait du basket. Et en gros,
oui,
t'as.
Il est pas très courageux pour l'instant.
Non, non, mais il fait du basket
beaucoup,
et il est gay.
Il fait un sport co et.
Du coup, en fait, tu vois, il y a un basketteur, par exemple, qui va avoir le prix du meilleur basketteur. Et bah, Victor, lui, il a le prix du courage.
Ah,
le prix du courage gay, en fait. Il appelle, il appelle le prix du courage gay, ce prix.
Du coup, c'est chelou. Ce que t'as trouvé positif.
Non, non, c'est pas ça. Déjà, j'ai trouvé quoi? Pourquoi il lui offre un prix? Parce qu'il est gay, c'est trop chelou. Non, son discours est pas mal. Il dit « Être courageux ne signifie pas qu'on n'a pas peur d'avoir peur. Ça signifie qu'on embrasse l'effroyant. » L'effrayant, je vais y arriver. Parce que je crois que bien souvent les choses les plus effrayantes sont aussi les plus importantes. Et c'est le cas quand on admet qui on est et ou bien qui on aime. Voilà.
Ok.
C'est une jolie phrase. Mmh. Mais le prix du courage gay, bah.
C'est chelou. C'est voilà. Moi, je trouve ça un peu chelou.
C'était le final. Bah, franchement, heureusement qu'il n'y a pas de suite parce que je crois pas que je l'aurais gardé.
Est-ce qu'il y a des nouvelles de Simon?
Non.
Jamais plus.
Il y en a eu dans la saison 2.
Ah.
Mais depuis, il fait ses études. Il est en paix.
Il boude.
Il fait sa life.
Eh ben, on en a terminé avec les séries. On va passer au film.
Tout, tout, tout.
Les films, eh ben c'est surtout moi qui
je vais arrêter de parler.
Regardez.
Bonne nuit.
J'ai été covidé donc du coup j'ai eu beaucoup de temps pour regarder plein de films.
Et tu vas beaucoup mieux maintenant.
Ça s'entend. On entend le changement. Hein.
Et oui. Alors j'ai commencé par regarder Tic et Tac, les Rangers du risque.
Ah.
Non mais soyez pas, arrêtez de juger quand je regarde des films.
En vrai le problème c'est le titre. Après il est peut-être bien.
Le titre c'est Chip and Dale. Ranger of the Risk. Je sais plus. C'est sorti
Chip
le 20.
Dale,
oui, le nom de Tic et Tac en VO c'est Chip and Dale.
Ah, d'accord.
C'est sorti le 20 mai 2022. Ça dure 1h39. C'est sur Disney Plus. C'est réalisé par Akiva Schaffer. Et à la VF, on trouve Guillaume Lebon et Antoine Chomsky dans le rôle de Tic et de Tac. Le résumé, c'est depuis la déprogrammation de la série dont ils étaient les héros, les vies de Tic et Tac ont pris des directions diamétralement opposées. Tic s'est reconverti en représentant en assurance et mène une existence ordinaire dans une banlieue résidentielle. A l'inverse, Tac a fait l'objet d'une opération médicale pour apparaître en 3D et se produit dans des galas et conventions empreints de nostalgie où il tente vainement de retrouver sa gloire passée. Lorsqu'un de leurs anciens partenaires d'aventure disparaît mystérieusement, Tic et Tac n'ont d'autre solution que de renouer avec leur amitié passée et de reprendre leur chapeau de détective pour partir à son secours. J'avais pas fait gaffe au chapeau de détective.
Chapeau de détective, c'est
l'expression nulle.
On parle du truc d'assurance aussi.
Bah en gros, c'est que. Mais en gros, c'est que Tic, il a quitté le show business, quoi.
Mm. Il a trouvé un petit job un peu.
C'est ça, bah, il s'est rangé dans la vie normale.
Il vit sa vie de merde, quoi.
Ouais, vraiment, la série.
Beaucoup de jugement.
Bah, la série dit qu'il vit une vie pas ouf.
Bah, il y a des gens qui besoin des assurances qui sont très heureux.
Oui, bah, pas Tic.
Ok.
Bah, c'est une sorte de film un peu héritier de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Dans le sens.
Pas moi.
Quoi ? Ah, oh là là, c'était une réponse à la question de Qui veut la peau de Roger Rabbit.
Quel titre du film, quand même.
Oui. Mais ouais, de quel film c'est ? Le film où il y a des toons qui interagissent avec des vraies personnes. Enfin, c'était une révolution à l'époque. Mais on est un peu dans le même délire où il y a des toons qui vivent dans notre monde. Et donc, c'est le même concept de base et c'est très bien fait. Mais c'est une version 2022, donc, où cohabitent tous les styles d'animation. Il y a de la 3D, il y a de la 2D traditionnelle, il y a du stop motion, il y a même des personnages en chaussettes. Et ça, c'est vraiment trop bien. Il y a un personnage chaussette. Et j'en oublie certainement aussi.
Est-ce que ça ressemble un peu aux Looney Tunes ?
Bah, c'est le même principe, ouais. Mmh. Mais... Ah oui, ça ressemble un peu à Space Jam. Et tu me fais penser, j'avais un peu oublié de le dire... C'est exactement la même ambition que Space Jam 2, sauf que Space Jam 2, c'est nul à yesh, et celui-là, il est hyper bien. Dans le sens où, en fait, Space Jam 2 disait « Eh, venez, on réunit plein de licences, mais on sait pas quoi en faire. » Et ben là, tout ce qui apparaît est soit est là pour un petit gag très drôle, soit a une importance.
Ce qui est mieux que...
Par exemple, on fait venir, et ça, c'est une des meilleures idées du film, il y a le Ugly Sonic. Le Sonic moche.
Celui qu'ils n'ont pas mis dans le film.
Exactement. Il est là, mais c'est incroyable de dire le Sonic moche, c'est un vrai personnage. Ou en fait, c'est dans le Sonic moche, est vrai, il s'appelle comme ça. Il fait les conventions.
Aucun
respect. Et il se présente en Sonic moche.
C'est très chelou.
C'est très méta. Oui, il s'est fait jeter. Il arrête pas de dire on n'a pas voulu de moi. Et du coup, c'est devenu une star en convention parce que c'est le Sonic moche. Et en fait, le film a un vrai. Un vrai second degré un petit peu, c'est il y a pas mal de mèmes, etc. Enfin, je trouve que c'est déjà, donc je disais, visuellement c'est très très riche, et c'est aussi un hommage au cinéma d'animation qui est très agréable parce que bah du coup il y a toutes les animations et bah comme on le disait dans le résumé, il y a Tic qui est en 2D, qui est resté en 2D, et Tac, bah ça, en plus ça, Tac il s'est fait opérer pour devenir en 3D. Et on sait pas vraiment comment ça se passe, mais il apparaît en
3D. On n'a pas l'explication scientifique.
Donc déjà, visuellement, c'est très rigolo parce que du coup, t'as deux personnages. Il y en a un qui est en 2D, un qui est en 3D, donc ça rend un truc plutôt chouette.
Ouais.
Et en même temps, du coup, ça fait un peu une métaphore avec les stars du passé qui essayent de revenir à tout prix, donc qui font parfois de la chirurgie esthétique, mais qui sont plus ridicules qu'autre chose. C'est assez malin dans la manière dont c'est fait. Et donc, c'est... Ça, quand je disais que c'était un hommage au cinéma d'animation, ça parle même... Enfin, c'est vraiment un des enjeux du film, c'est... vous avez les films d'animation tout pourris qu'on trouve à Noz ou dans les autres des Stalkers. Et ben, c'est un enjeu du film. Où, en
de
gros,
pas finir dans ces trucs-là ou de...
ah, c'est oui. Ça. En gros, c'est... Il y a des... Enfin, je spoilerai si je le dis, mais en gros, c'est ne pas finir dans ces films tout pourris.
Ouais.
C'est un super moment pour les enfants parce que c'est rigolo et c'est bien fait, mais ça s'adresse aussi aux adultes parce qu'il y a une sous-lecture par rapport à notre rapport au cinéma dans tout ce que j'ai dit précédemment, à notre rapport aux idoles du passé aussi et à la nostalgie ambiante qu'il y a partout, où ça parle des conventions où il y a clairement que des personnages du passé, où Tac en est un. Et bah, je ne m'attendais pas à ce que ça aborde ces sujets-là en lançant ce film. Je l'ai lancé parce que j'ai écouté des podcasts où ça disait « c'est vachement bien, allez-y ». Donc je dis « allez, let's go ».
Je vais te demander pourquoi tu l'avais lancé du coup. Mais...
Oui, et en fait, bah, au final, c'est un coup de cœur que j'aurai cette année, je pense. C'est sûr.
Cool.
Voilou pour Tic et Tac. En plus, c'était pas long, donc c'était cool.
Ça dure combien de temps ?
1h39.
Ah oui, ça va.
On va enchaîner avec un autre film qui est clairement moins bien. C'est Fanboys. C'était sorti en France le 2 août 2011, parce que c'était sorti en 2009 aux US. Ça dure 1h30 et c'est actuellement dispo sur Salto. C'est réalisé par Kyle Newman avec Kristen Bell, Seth Rogen et Dan Fogler. Dan Fogler, il est, son nom est moins connu, mais il joue dans Les Animaux Fantastiques maintenant. C'est le Moldu qui traîne avec les magiciens.
Mmh, d'accord. Quelle tête ronde.
Oui, et une moustache.
Oui.
Le résumé, c'est en 1998, quatre fans de Star Wars parcourent les États-Unis pour réaliser le dernier vœu d'un ami, voir l'épisode 1, La Menace Fantôme, avant sa sortie en salle. Ils se rendent alors au Skywalker Ranch de George Lucas pour voler une copie du film, mais leur voyage ne sera pas de tout repos. Alors, durée de film 1h30, ressenti 7h45.
C'est extrêmement précis.
C'était vraiment pas bien. Pas bien du tout. Pour la petite histoire, on m'avait conseillé ce film il y a au moins 10 ans, parce que ça parlait de fans de Star Wars. Et peut-être qu'à l'époque, c'était bien, mais en 2022, il n'y a rien qui va. C'est sexiste et homophobe, d'une part. Et ça, c'était un enfer, parce que tout le long, ça n'arrête pas. Ça caricature les geeks en mecs asociaux, incapables de parler normalement à une fille sans bégayer. Alors, je viens de faire le résumé de Big Bang Theory, mais au moins les personnages de la série, ils étaient attachants.
Oui, puis ils évoluent un peu quand même.
Ils évoluent, alors que dans le film, ils sont juste grossiers, vulgaires et antipathiques. Et c'est obligé qu'aujourd'hui, c'est 100% les fans toxiques de Star Wars sur Twitter. C'est sûr.
Après, peut-être que c'était ça le but et qu'ils étaient juste en âme.
C'est l'espèce de mec qui se prennent pour les gardiens du temple de Star Wars ou je sais pas quoi. Enfin, c'était horrible. C'est sûr que c'est eux. La mise en scène du film, elle est nulle. C'est fauché, il n'y a pas de thune. Puis c'est vraiment un téléfilm. Or que c'était vraiment vendu comme un film. Il y a un truc amusant, par contre. C'est voir la considération populaire de Star Wars avant le rachat par Disney. Parce qu'aujourd'hui, c'est globalement apprécié par tous les publics. Il y a des lands à Disneyland. Les magasins, elles débordent de jouets Star Wars, etc., etc. Mais en 2009, c'était clairement une sous-culture qui était moquée, qui était raillée, qui était poussiéreuse. Et je peux en attester parce que je l'ai vécu. On s'est moqué de moi parce que j'aimais Star Wars à cette époque-là. Et en fait, le film, il raconte ça. Et c'est la seule chose intéressante. C'est le fait d'assumer sa passion... quand bien même elle est critiquée, sauf dans le film, les personnages passent leur temps à se foutre de la gueule de Star Trek, parce que le film dit qu'il faut assumer Star Wars, mais qu'on peut se moquer de Star Trek, parce que Star Trek c'est quand même nul.
Oui, du coup c'est un peu absurde.
Donc c'est complètement con, c'est très, ça va à contresens du discours. En fait ça joue très très mal avec la rivalité entre Star Wars et Star Trek. Mais les fans de Star Wars sont déjà des gros ringardos pas sympas dans la série, mais les fans de Star Trek sont encore plus des gros nazes. Ils sont présentés comme ça en tout cas. Donc le respect, tout ça, ça a ses limites. Il y a un truc qui est marrant, c'est la dernière phrase du film. Vraiment, la dernière phrase, elle est juste drôle. Je peux vous la raconter parce que finalement, c'est pas grave. Donc ils sont au cinéma, ils ont pas réussi à voir le film, ils ont pas réussi à le trouver... à trouver la bande, mais ils vont voir le film au cinéma et il y en a un qui dit à ses potes, les gars, et si le film était nul? Et en fait ça fait écho au fait que les fans de la trilogie aiment pas du tout Star Wars 1, trouvent que c'est un navet, donc en fait ça fait un peu wink wink.
Ouais.
Et les fans, c'est vous avez compris la blague.
Plus, du coup pour les fans, enfin.
Oui, je pense que si t'es pas trop au courant que la
limite t'as pas la blague en plus.
Oui voilà.
Et par contre, le côté téléfilm, ça a l'air normal, c'est un budget de 3 900 000,
attends,
c'est quand même pas
c'est
beaucoup.
Très peu, c'est très peu. Ok, mais en même temps, c'est pas très beau du coup.
Oui, remarque, il y a des films qui n'ont pas beaucoup de budget qui sont plus beaux.
Et Damien, je pense que c'est mal rangé, mais c'est un stand-up.
C'est très mal rangé, mais je me suis dit, autant qu'on en parle avant le sujet du mois.
Oui, c'est mieux.
Voilà, du coup je l'ai mis là.
Tu l'as mis
allez,
là.
Allez, bah pas de virgule, on enchaîne avec.
Ok. Et bah du coup, moi, je vais vous parler d'un spectacle drôle. C'est le titre du spectacle. J'ai pas mis ça juste comme ça. Oui.
C'est malin.
Bah c'est pas moi. C'est Marina Rollman qui a fait une blague.
C'est une française. Bah oui, parce que.
Non, elle est suisse.
Ok. Donc,
Elle est francophone. Je crois qu'elle vit à Paris globalement. J'ai pas vu la date de la captation, mais c'est sur MyCanal depuis cette année. C'est assez court, ça dure 1h18. Franchement, ça se regarde très bien dans une soirée. C'est pas forcément un très très long spectacle.
Pendant qu'on miam.
Bah, ouais, en plus ça marche. Ça parle de nourriture en plus pas mal, donc c'est ça peut être rigolo. Moi, je connaissais pas trop ce qu'elle faisait récemment. J'avais écouté pas mal de ses. Elle était dans L'Ancien par Jupiter, je crois. Où je dis des bêtises. En tout cas, elle faisait des chroniques sur France Inter. de manière très régulière il y a quelques années. Là, elle en faisait encore quelques-unes cette saison, mais très très peu. Je crois qu'elle a... Bon, pas dire de bêtises non plus, on a fait vraiment pas beaucoup. Et du coup, j'ai vu que son spectacle était sur MyCanal et je me suis laissé tenter pour une soirée. Et c'était trop bien. C'est un spectacle assez classique dans sa forme. Il y a pas mal de sujets qui sont un peu découpés et c'est pas révolutionnaire comme ce que fait Bo Burnham ou des gens un petit peu plus jeunes, sans doute. Peut-être pas, en vrai, c'est peut-être un peu méprisant comme manière de le présenter.
Après, tu compares avec Bo Burnham. Oui. C'est ça son nom ?
Burnham.
Burnham. Oui. C'est le meilleur.
Oui, après, donc, elle est vraiment très très drôle, hein, Marina Rollman. Dans les Françaises, il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi marrantes. Et donc, oui, donc c'est assez classique au niveau format. Par contre, tous ses points de vue sont très. Genre, vraiment, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui fait des spectacles là-dessus. Au moins, elle est sûre que personne ne va venir lui voler ses vannes. Elle fait plein de trucs sur la nourriture, elle fait pas mal de trucs sur le sexe, le sport, les addictions. Enfin, elle traite de plein de sujets plutôt d'actualité. Elle n'est pas forcément très politique. Par contre, elle a quand même un point de vue super intéressant sur plein de petits sujets, on va dire. En tout cas, de sujets qui sont un peu moins traités, justement, par les comiques en général. Et puis, en plus, c'est bien d'avoir un point de vue féminin, je trouve, parce que je me rendais compte que dans la majorité des spectacles de stand-up qui sont proposés sur Netflix, par exemple, bah, tous les specials, c'est presque que des mecs, quoi. Mm. Donc c'était bien. Même si on a vu une série qui parlait aussi pas mal de spectacles comiques au féminin, dont j'ai oublié le titre, qui n'a pas de suite.
Drôle, pas
oui,
du tout.
Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à le regarder, c'est très très bien.
Il faudrait vraiment que je me mette à regarder des stand-up, parce qu'en plus c'est super court, donc c'est ça...
Mais c'est ça, 1h18, c'est vite fait. Après, je sais pas si c'est la meilleure porte d'entrée, enfin, dans le sens où il y a plein de trucs peut-être plus classiques et tout, mais... Elle parle très vite.
Blablabla.
Ça donne un rythme. Non, mais vraiment, ça donne un rythme différent. Il y en a beaucoup qui, en général, du coup, laissent des longues pauses et tout. Et elle, non, ça enchaîne. Plus, du coup, ça joue peut-être sur le côté 1h18. Ça serait peut-être quelqu'un d'autre. Ça serait 1h45. Mais elle parle très, très vite. Et ben, du coup,
Mais je connais pas du tout cette personne.
Moi non plus.
Elle est suisse. Elle a un chien mignon.
Oh, bah alors...
Qui s'appelle Ottavio.
Bienvenue, Ottavio.
Je crois bien.
Il a un petit air de petit italien mignon.
On va écouter la bande-annonce du sujet du mois pour enchaîner.
Mm-hmm.
Et ben, let's go.
Il fut un temps où d'effroyables monstres des mers ravageaient nos côtes et où aucun bateau n'était en sécurité sur l'eau. Mais que cette époque est révolue. Aujourd'hui, ces valeureux guerriers affrontent les monstres aux confins des océans. Tu es Jacob Hollande, une arme contre la pire création de la nature. Et j'embarque avec vous.
Non, il n'en est pas question.
Hé, hey, pose-moi, lâche-moi tout de suite.
Nous repartirons tuer un monstre.
En cachette.
Eh bien, oui.
J'aime bien cette gosse. On va te déposer au port le plus proche. Ce genre de bateau n'est pas pour les enfants.
Mais quand t'es arrivé, t'avais mon âge.
J'arrive, Maïdée.
Et regarde ce que t'es devenu.
C'est pas la même chose.
T'en es certain?
Oui, j'en suis certain.
La mère de Dregmore grouille de monstres.
C'est un monstre et il est hors de question de l'adopter.
Il est si mignon.
Eh ben dis donc, je vois qu'on n'a pas la même notion du mignon. Reste, tu es, ne bouge pas.
Maintenant, faut y aller.
Je vois une flamme en elle, la même que j'avais vue en toi.
Les monstres, j'en fais mon affaire.
J'ai touché pile là où j'ai visé.
Non, ne fais pas ça.
Celle-ci, elle va me tuer à petit feu. Je me suis juré que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour protéger le peuple de ces démons.
Ça arrive aux héros de commettre des erreurs.
La mère nous envoie ce qu'elle abrite de pire et on va lui renvoyer sans pitié.
Feu.
n'en ai pas.
Mais je lui ai déjà donné un.
Laisse-moi deviner. Bleu.
Et il s'agit évidemment du Monstre des Mers.
Monstre.
C'est un film américain de Chris Williams qui est aussi le réalisateur des Nouveaux Héros,
oui,
de Vaiana et
oui,
de Volt.
Volt. Volt, c'est comme Slow.
Oui.
C'est un petit chien blanc.
Et il a moins de poils.
Oui. C'est sorti sur Netflix le 8 juillet 2022 et ça dure 1h59 et je n'ai pas trouvé les acteurs et actrices de doublage VF. J'aurais pu aller les chercher dans les crédits au fin fond du générique, mais je n'ai pas eu le temps de le faire.
Une bande de retraités.
Et en fait, il y a assez peu de contexte et d'infos sur ce film. C'est trop bizarre. J'ai juste vu que les deux scénaristes avaient comme référence Master and Commander, un film avec, j'ai oublié son nom, un acteur connu.
Bravo.
Et Moby Dick.
D'accord.
Ah ouais.
Le réalisateur aussi a précisé que la création des designs des créatures a été soignée.
Non, c'est vrai, tu crois?
Non, mais vraiment qu'il y avait une... Alors, il a dit, c'est vraiment essayer de trouver le juste milieu entre l'imagination artistique, mais avec une véritable recherche pratique. Mmh. En gros, il fallait que les monstres soient crédibles.
Oui.
En gros, c'est une manière de... Voilà. Et puis, ils sont aussi inspirés de vrais animaux. Genre, le monstre vert à tentacules, il est inspiré des crocodiles.
Oui, c'est vrai, il a une mâchoire de crocodile.
Voilà. La navigation aussi du bateau, elle a été très soignée. Parce que, par exemple, il y a une maîtresse de voile,
oui,
elle s'appelle Madame Merino. Et aussi, tous les différents éléments, les mâts, les voiles, le sens du vent, tout ça, c'est vrai.
Oui, ça a l'air très carré.
Voilà.
Le vocabulaire ressemble à celui de...
D'un bateau.
Oui.
Je crois que le vocabulaire, c'est le seul truc où il y a un peu de liberté, justement.
Ah oui.
En mode... Non, mais ça joue un peu crédible, mais c'est le seul truc qui est un peu où... Allez, on fait un peu du folklore, quoi.
Mais en même temps, c'est un peu un truc d'époque, je pense.
Ouais. Mais je trouve que on va en parler très souvent... par rapport à Pirates des Caraïbes, ça sent un peu plus la crédibilité, quoi.
C'est vrai. En même temps, Pirates des Caraïbes.
Caraïbes.
Oh. La balle perdue. le résumé. À une époque où des bêtes terrifiantes parcouraient les mers, les chasseurs de monstres étaient des héros. Et aucun n'était plus aimé que le grand Jacob Holland. Mais lorsque la jeune Messi Brumble s'embarque sur son navire légendaire, il se retrouve avec un allié inattendu. Ensemble, ils se lancent dans un voyage épique dans des eaux inexplorées et marquent l'histoire. Je n'ai pas fait gaffe, mais le résumé est un peu nul. Hein.
Une alliée inattendue.
Ouais, ouais, bah oui. C'est un copier-coller, donc c'était un peu nul. Qui veut commencer à parler de ce film? Vous avez rien écrit.
Mais non, l'allié inattendu, c'est Red.
Bah, c'est une fille quand même. Hein.
Exact.
Ah oui,
exact.
It's a girl.
Oui, mais bon...
Red, it's a girl.
Je commence alors.
Si.
Et ben moi, je soupçonne les scénaristes d'avoir regardé Dragon, puis Pirates des Caraïbes après, et puis d'avoir dit, bah si on faisait un mélange des deux. Mmh. Arrêtez quand même. C'est vraiment le même scénario que Dragon.
Non, parce que Dragon...
C'est des monstres qui font peur, et puis d'un coup, il y a un enfant qui dit, bah en fait, ils sont peut-être sympas.
Non, parce que Dragon, c'est pas l'appareil. Dragon, c'est vraiment... différent parce que déjà...
C'est pas pareil parce que c'est différent.
Je suis convaincue.
Il tire sur Dragon et il lui casse un truc de queue.
C'est Croque-Mou.
Il tire sur Croque-Mou, il lui casse un truc de queue et après il doit lui réparer. Et en fait, Croque-Mou, il peut pas voler s'il a pas son humain sur son dos.
Heureusement que c'est pas un copier-coller.
Ils ont mais... tiré sur sa queue.
Donc,
c'est
quand même lunagé. Oui, mais du coup, il y a une raison de lier le dragon et l'humain.
Bah,
le dragon ne peut pas vivre sans l'humain. Là, le monstre, il peut vivre sans eux. Il est juste sympa.
Le monstre, il est pas juste sympa. Il est clairement plus intelligent que les humains. Il veut que ça cesse, que son peuple soit tué.
C'est pas spécifiquement vrai parce qu'il attaque pour tout et pour rien.
Bah, pas du tout.
Mais c'est sûr que si.
Pas le grand.
Si.
Non.
Si. Quand il voit le méchant bateau, il monte sur l'île et il les attaque. Alors que le méchant bateau, il l'avait même pas vu.
Bah, c'est normal, le méchant bateau, il est là pour tuer tous les monstres.
Bah oui, mais bah, s'il était gentil,
but,
il serait parti. Non, je suis pas d'accord.
Malgré tout, bah, j'ai bien aimé quand même. Parce que visuellement, l'eau, elle est magnifique.
Oui, dès les premières secondes.
Oui. Première seconde, ça fait très.
On se croirait dans La Reine des Neiges.
Bah, j'en parle après, mais les premières secondes, ça fait très.
comment on peut dire, scène un peu technique pour montrer à des gens. Et regardez ce qu'on peut faire. Ça vous dit qu'on fasse un film ? Et ben voilà.
Un pilote.
Ouais, une sorte de pilote. Mais voilà, tu parlais de la Reine des Neiges. On a félicité la Reine des Neiges 2 par rapport à l'eau.
3.
Non, il n'y en a que 2.
Ah, oups.
Et ben, je trouve que l'eau est encore plus belle ici. Pour de vrai.
Pour de vrai.
Les cheveux aussi sont superbes.
Les cheveux ?
Les cheveux. D'accord. Les cheveux sont trop bien animés. Surtout les cheveux de Messi sont trop beaux.
J'ai fiché des cheveux, mais chevaux, mais je n'en trouvais pas.
Et puis les couleurs et les lumières, elles sont très belles aussi.
Moi, je trouve que le petit monstre Gloops, il fait très gluant.
Ouais.
Le bleu.
C'est qu'il est bien fait, parce que c'est pas facile de faire gluant.
Non. Et justement, oh mais vraiment, les transitions, on dirait qu'elles sont toutes trouvées. Bah, je trouve que le problème, par contre, visuellement, c'est les monstres qui sont très plats, il y a très peu de texture. On dirait presque qu'ils sont en plastique.
Moi, je trouve pas.
Peut-être parce qu'il va argumenter.
Parce que ils sont différents.
Parce qu'ils sont pas pareils.
Non, je trouve que par exemple le monstre gluant, il fait très gluant le petit bleu et c'est très réaliste. On dirait vraiment un monstre gluant. Et à côté de ça, Rouge, elle a toujours des petits traits partout sur elle.
Il y a que ça
qui montre que elle a de la texture.
Bah, l'espèce de grosse araignée, elle a des espèces de poils et tout.
Ouais, mais en fait,
vu des poils,
ouais, ouais, mais en fait, c'est parce que Rouge, elle a une texture comme ça, tu peux pas faire...
Texture plastique.
Bah, ça existe. Peut-être que tu peux pas faire autrement.
Non, mais même le bateau, l'inévitable, il a des écailles sur la coque.
Oui, mais c'est parce que quelqu'un a fait ça.
C'est qu'il y avait la flemme de mettre des écailles sur les monstres.
Mais
moi,
non,
que les
c'est parce que ce monstre, il a pas d'écailles aussi. Ouais, qu'est-ce que tu veux rajouter
de
des écailles partout?
Enfin, moi, j'étais déçu par le design des monstres et la qualité de leur.
Moi, j'étais déçu que
il avait le juste milieu entre l'imagination artistique et une véritable recherche pratique.
Moi, je trouvais que le monstre rouge avait pas assez d'émotions sur sa tête.
Bah voilà,
il fait toujours la même tête.
C'est un gros monstre.
Oui, mais regarde Croque-Mou, il fait la paix d'émotion sur son visage.
Croque-Mou, c'est un chat
il
aussi.
Il est clairement anthropomorphique de la tête.
Oui, bah là, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il passe leur temps à le regarder, à le fixer comme ça.
Bah oui, c'est la seule manière qu'il a de passer des trucs.
De passer des quoi ?
Des émotions.
Non.
Mais si.
Et je pense qu'il comprend pas les humains parce que quand il lui dit tourne à bâbord, il le fait pas alors que la petite fille suis un oiseau qui tourne. Elle fait oh oui, je suis un oiseau qui tourne.
Va dire à quelqu'un qui ne parle pas notre langue bâbord et tribord.
Oui. Ça,
déjà, je pense que la moitié des êtres humains connaissent pas bâbord et tribord.
Bâbord slow.
Elle imite le youtubeur.
Non, elle connaît pas.
Pour une partie des Français.
Bâbord.
Il y a un youtubeur qui s'appelle Bâbord.
Oui, je crois.
Connais pas.
Autre truc qui pêche, c'est la mise en scène.
Les poissons.
Bien joué. Il y a des créatures gigantesques qui sont vraiment immenses, mais il y a pas vraiment de gigantisme. Jamais je me suis dit, il est vraiment très gros ce poisson. Enfin, ce monstre.
Quoi ? Mais c'est quand ils sont par rapport à un bateau.
Bah, je trouve que le gigantisme, il est pas hyper
assez
bien
d'accord.
Fait.
Red, ils te disent, oh là, il peut bouger un océan.
Ouais, alors
c'est
que quand.
C'est un gros poisson qui fait deux fois la taille du bateau. C'est gros, mais c'est pas non plus.
Alors
mais
qu'en
c'est
plus.
Jamais bien mis en scène.
Ils l'appellent la truc rouge, comme ils disent.
Je sais pas.
La machin rouge. La géante rouge. Enfin, en gros, il a un nom, le
oui,
méchant.
C'est vrai, mais j'en rappelle plus.
Et je trouve ça bizarre parce que, par exemple, quand il y a la petite tante qui est sur son dos, et ben on a l'impression que c'est juste une baleine, le truc.
Bah après, tu vois que la partie est émergée.
Ouais, mais au niveau de la taille, on dirait juste qu'ils sont sur le dos d'une baleine, quoi.
Oui, mais justement, parce que tu vois que la partie est émergée, je pense aussi.
Je sais pas.
La caméra manque aussi un peu de folie, alors que c'est l'avantage de l'animation, c'est de pouvoir, comme t'as une caméra qui n'existe pas, tu peux faire des trucs un peu foufou. Ben là, c'est très rigide, c'est très classique. Donc c'est un peu dommage de pas en profiter. Même si... Les scènes d'action, elles sont haletantes et réussies.
Ouais, pour le coup.
Les scènes d'action du début, elles sont vraiment chouettes.
Ouais.
Le scénario, il est basique.
Basique.
Autant simple et basique. C'est la première partie est très originale. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, quand on est en pur, les chasseurs, c'est les gentils, les monstres, c'est les méchants. Ah avant, ouais. Avant que Maisie arrive sur le bateau, en fait. Cette partie-là, je la trouve vraiment bien.
Les enfants, vraiment.
C'est, je faisais la comparaison avec Pirates des Caraïbes. C'est pas un plagiat, mais l'ambiance est un peu pareille, mais elle va vers d'autres trucs avec un peu des sonorités, des cornemuses.
Bah oui, mais ça, c'est parce que vous avez pas l'accent et tout, mais en fait, tout, oui, mais non, mais plus, pour de vrai, en oui, VO, vrai. Tout le film a une teinte un peu écossaise, irlandaise, et en fait, tu le perds un peu, là, pour le coup.
Mais, bah, du coup, si la première partie est bien, la deuxième, elle est, elle reprend un schéma beaucoup plus basique. Et c'est trop long!
Moi, je dis oui, deux
c'est
heures,
beau,
c'est
un peu contemplatif, il y a des petits trucs mignons.
Ouais, mais c'est long.
Je pense que ça, c'est notre point de vue d'adulte, il faut qu'il se passe des trucs, mais pour mais des enfants, je pense.
Non, mais un enfant, bien, tu le laisses pas devant un film pendant deux heures, il reste pas. Hein. Il reste pas. Oui. Bah, il s'en va, en fait. Il dit, ah, il y a des monstres,
il y a... Il y a plein d'enfants qui vont au cinéma.
Ah, mais c'est pas pareil, là, c'est dans le salon, obligé. À moins que t'aies un cinéma chez toi.
Ouais.
Donc c'est dommage qu'on revienne vers un schéma beaucoup plus classique où il y a un gros dur au cœur tendre qui va évoluer au fil du film, l'enfant casse-cou qui comprend plus vite que les adultes, les méchants dont le seul trait de personnalité c'est d'être méchant. En fait, on retombe un peu dans des
stéréotypes,
dans des stéréotypes d'écriture.
Et aussi, moi pour le coup, bon, les stéréotypes m'ont pas gêné, juste à quoi elle sert la petite vieille qui lui vend son gros canon là?
Bah en fait c'est parce que...
Mais ça pourrait être n'importe qui quoi.
Oui.
Et
oui.
Elle lui dit vraiment un truc genre tu vas tout perdre. Et oui. En fait il perd pas du
il
tout.
Il perd
tout.
Que dalle.
Non mais j'ai rien compris ça.
Et justement tu parlais de la sorcière. Moi j'ai noté aussi que l'univers des chasseurs est assez mal exploité. Parce qu'en fait au final on voit vite fait un bateau au tout début. Et puis ouais. Autrement bah on suit l'équipage de l'inévitable. Mais on sent qu'il y a tout un lore et tout ça, mais on n'en parle jamais vraiment, à part dans les livres, mais...
C'est vite fait, quoi.
On pourrait voir, je sais pas, une flotte, ou alors voir...
Bah, ils ont pas l'air de faire des trucs... Ouais. Ils ont pas l'air de faire des trucs en flotte, ils ont l'air d'être plus en mode chacun dans son coin,
ouais.
Et c'est... vu qu'il y a un butin à récupérer par bateau et tout.
Non, mais c'est un peu une revisite des pirates,
bah,
dans
ouais.
un sens,
oui,
et
oui.
Les pirates, bah, toujours pareil, dans Pirates des Caraïbes, juste une scène à Tortuga, tu comprends comment fonctionnent les pirates, quoi. Tu comprends que c'est un peu des crapules, enfin voilà. Donc là, ça aurait été cool d'avoir une scène, surtout dans un film de deux heures où il y a des vrais moments un peu longs, ça aurait pu faire le taf de raconter ce lore-là. Et bah, néanmoins, le vrai point positif pour ma part, c'est le discours politique. Vous commencez à me connaître. Quand on dit que les riches sont des méchants, avides de pouvoir, prêts à sacrifier des innocents... qu'on est riche en héros bien sûr en plus pour effacer les injustices évidemment, bah moi je suis dans mon élément quand on parle de ça. Je sais pas si vous êtes d'accord.
Oui.
Ah. Et puis aussi les métaphores sur notre monde avec la persécution des minorités, les discriminations, les guerres, bah j'aime bien. Et il y a un truc dont je m'attendais vraiment pas et en plus les bandes annonces on ne parlait pas trop non plus, c'était qu'il y avait des choses qui sont des thématiques plus rares, encore plus dans un film pour enfants, c'est par exemple le fantasme du grand roman national, ou alors le révisionnisme, ou la culture de la peur et de la haine. Et bah voilà, j'ai envie de dire merci d'avoir osé parler de ces choses-là dans un film pour enfants. En plus, pour les parents qui regardent avec, peut-être que ça fera un peu réfléchir.
Oui, moi je trouve, quand je vois que quand j'ai vu que Messi a regardé c'est qui a écrit ce livre, et qu'il se rendait compte que c'était... les rois et la reine, et que ça venait du château, et qu'ils te disent mais en fait, ils essaient de nous faire croire quelque chose qui n'existe pas, c'est pour nous garder sous leur coupe et tout. T'es waouh, ça c'est de l'enfant vachement intelligente.
Bah, mais c'est vachement bien.
Bah, oui, c'est vachement bien.
Parce que mine de rien, rien qu'avec ce petit truc-là, tu dis aux enfants prenez du recul et sur ce que vous lisez et ce qu'on vous apprend.
Ouais, non, c'était super bien. Ce message politique était cool. Mais après, le film en lui-même, il était trop long.
Il y avait des choses bien, mais il y avait... On n'est vraiment pas très emballés. Il y avait des choses bien, mais il y avait, voilà, trop de trucs pas ouf.
Bah, visuellement, c'était cool. Le message politique était cool, mais il était trop long. Et il n'y avait pas tant d'originalité que ça, à part cette histoire de le discours qui était derrière, quoi.
Après, ça reste un film pour enfants. Hein. Le but était peut-être pas non plus de faire quelque chose de super original.
Mais il y a trop de trous dans le scénario aussi. Enfin, la sorcière, comme tu dis, on n'en fait jamais rien.
Oui, c'est vrai que la sorcière, ça marche.
Des fois, la seconde du capitaine qui change d'un coup d'avis. Enfin, elle passe sa vie à chasser des monstres et d'un coup, je fais « Allez, je vais t'aider ».
Ouais, c'est pas d'un coup, c'est un tout petit peu amené. Mais je suis d'accord, c'est un peu brutal. Mais il y a une scène ou deux avant où... Il y a une scène ou deux avant où il se passe quand même des petits...
Des petits trucs.
Tu sens qu'elle a quand même des remords.
Ok.
Mais oui.
Voilà, on n'est pas hyper, hyper emballé. Il y avait des trucs bien, mais on n'est pas hyper emballé par le monstre des mers. On va vite passer maintenant aux recommandations du mois prochain.
Les recommandations.
Mathilde, tu vas prendre le bâton de la parole.
C'est août, c'est les recommandations du mois d'août. Il n'y avait rien dans Ça continue, alors j'ai
tout
rien.
Est fini.
Tout est fini. Tout est fini.
On n'a pas parlé de Spy Family.
Oui, bah on en parlera le mois prochain parce qu'il me reste encore 3 épisodes à regarder.
Ah, on n'en a pas parlé parce que tu l'as pas fini.
Oui. Vendredi 5 août sortira sur les plateformes The Sandman saison 1, une série DC Comics sur Netflix. Lego Star Wars, c'est l'été. Nouvelle histoire de la saga Lego Star Wars sur Disney+.
C'est l'été.
En vrai, j'ai envie de regarder.
C'est l'été. Mercredi 10 août, il y aura la saison 3 de Lock and Key
j'ai
sur
pas
Netflix,
vu la 2.
Qui sera, il me semble, la dernière.
Bah, je sais pas.
C'est ce que tu avais dit.
Oui.
Ouais.
Bah, regarde la 2 parce que voilà, faut mieux. Moi, j'ai regardé la 2 déjà. Je suis à jour.
Tu te la racontes.
Il y aura également I'm Groot saison 1, 5 courts-métrages Marvel Studios sur Disney+.
C'est une vraie série ou c'est des courts-métrages?
Bah, t'avais dit, t'as écrit saison 1, donc je n'ai pas enlevé pour pas te contredire, mais moi je savais pas que c'était une saison 1.
D'accord. Mmh. Vendredi 12 août, il y aura Mes Premières Fois saison 3 sur Netflix et ça sera également la dernière saison, il me semble.
J'en sais rien.
Je crois. Mercredi 17 août, She-Hulk Avocate, saison 1, série Marvel Studios sur Disney+, un épisode par semaine pendant 9 semaines.
Ça fait combien d'épisodes ?
9.
Oui.
On fait des malins.
Ça va durer longtemps.
Bah, c'est jusqu'en octobre.
D'accord. Une vie à l'autre, c'est un film qui sort sur Netflix également le 17 août avec une des actrices qui joue dans Riverdale.
D'accord.
Vendredi 19 août, il y aura la série Alma, saison 1 sur Netflix.
Ça parle du centre commercial à Rennes.
Non, j'ai lu le synopsis et ça avait l'air cool, mais je ne me rappelle plus. Je l'ai lu il y a longtemps. Lundi 22 août, il y aura Game of Thrones House of Dragon saison 1 sur OCS en simultané US. Donc, il y aura un épisode par semaine, je pense aussi.
Ouais.
Mercredi 31 août, il y aura Andor série Star Wars saison 1 sur Disney+. Et ça sera fini pour ce mois.
Ça, j'ai hâte de Andor.
Alors, la question est la suivante.
Ça sort tout d'un coup ou pas ?
Je pense
non,
pas.
Non, je pense pas.
Ah, shit. La sinon, ça aurait pu être le sujet du mois.
Ouais, la question, c'est quoi le sujet du mois parce
Lego Star Wars. Non, je rigole. On peut dire The Sandman.
Bah, moi, ça me va, The Sandman.
Ok, The Sandman.
Ça peut changer, en plus, une série d'ici plutôt que...
C'est vrai. Ainsi se termine ce 21e épisode du Récapito. Toujours pas de vacances pour nous, donc on revient dès le mois prochain pour vous parler de plein de super trucs.
Alors moi je suis en vacances hein, par contre.
Oui, non mais on retrouvera un moment pour enregistrer, c'est oui. Ça, le Récapito ne prend pas de vacances.
Moi j'ai pas de vacances.
On espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez mettre plein d'étoiles pour nous aider à être mieux référencés. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux Twitter et Insta, et surtout sur notre blog plaid.fr. Donc, n'oubliez pas de vous hydrater.
Trop de motivation.
Oui, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. On se retrouve le mois prochain pour parler donc de The Sandman sur Netflix. Merci Mathilde.
Merci.
Merci Damien.
Merci à vous deux.
Et salut.
Bye.
Allons au dodo.